Oh, voyez-vous, ça, c'est le bureau ovale. En fait, j'étais à la recherche de... la chambre rectangulaire.
Une ombre grandit sur le mur derrière toi. Qu'est-ce que c'est?
Tu imagines qu'il s'agit de vos gorgons?
Ça veut dire qu'on est piégés, chacun pour sa porte.
Oh, tu vas la faire.
En fait, j'avais pas prévu de me montrer parce que votre conversation est super bizarre et embarrassante et je voulais pas que ce soit gênant.
T'as l'air réjoui?
Je le suis.
T'as fait un truc dégoûtant?
Moi, je ne suis pas si réjoui que ça.
Dès que vous êtes absolument certaine que je ne vous entends plus, posez votre question.
Les oiseaux sifflent! Le printemps siffle!
Exécutez cette fête!
God, please, no! 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 No!
Bonjour! Bonjour, Mathilde, comment ça va?
Ça va, et toi?
Oui, je suis fatigué de ma journée. Je vais m'endormir. Bonjour Damien, comment ça va?
Hello, ça va, tranquille. Je ne suis pas fatigué de ma journée.
Bah, tant mieux.
Tu vas mettre de l'énergie.
C'est vrai.
Compte sur moi.
C'est un programme assez chargé, encore une fois, qu'on vous propose ce mois-ci. Moi, je trouve quand même... On va encore dépasser les deux heures. Non. Entre une séance de cinéma et une compétition d'haltérophilie aux Jeux Olympiques de Tokyo, on a surtout regardé des séries, figurez-vous, ce mois-ci. Peu de films. On vous parlera évidemment de Loki, la série spatialo-temporelle de Marvel, de Godzilla Singular Point avec des kaiju qui font peur, aussi de la dernière saison d'Atypical, et on terminera avec Comment je suis devenu super-héros, le blockbuster français finalement sorti sur Netflix. Mais avant de commencer, c'est l'heure des Hypito. Mathilde, tu as un hypito pour commencer.
Oui, c'est un hypito ou une actu. Bon, on aurait pu la mettre dans les deux.
Un hypictu.
C'est un quoi?
Chips.
Un hypictu.
Ok, un hypictu. Du coup, cet hypito, c'est l'ouverture d'une boutique en ligne de Netflix où dessus ils vendent des goodies, des vêtements, de la déco, des tables. Des tables basses, si vous voulez une table basse Lupin, tables. Cliquez. C'est sur www.netflix.shop. Voilà. Et en ce moment, sur la boutique, vous pouvez trouver des produits The Witcher, Eden, Yasuke, Lupin et Netflix, tout simple. Et chaque produit, en fait, est fait en collaboration avec un artiste. Le seul bémol, c'est que ça peut coûter un petit peu cher, mais c'est des produits quand même inédits et limités. Enfin, je pense qu'ils sont limités. On verra.
D'accord, on ira faire un tour.
Ouais, ça... moi j'ai vu des casquettes Netflix qui sont vraiment trop cool, mais bon, $60 la casquette, alors je vais pas investir tout de suite. C'est bête, elles étaient vraiment jolies.
C'est un shop US ou il y a un shop européen?
Bah là, moi je suis sur la version US, mais je sais pas s'il y en a.
C'est un point shop, donc.
Je pense que c'est
tout est en anglais.
Je sais pas.
Peut-être qu'ils envoient à l'international, mais en tout cas, c'est principalement anglais.
Ok, bah c'est pas mal. Ça va pas arranger nos comptes en banque, mais c'est pas mal. Damien, tu as aussi un hypito.
Oui, tout à fait. C'est l'animé de The Witcher qui sort le 23 août. C'est un film.
C'est un film.
C'est un film.
C'est pas une série animée.
Non, c'est un film.
Moi, je croyais que c'était une série animée.
Un peu déçu.
Non, ouais. Je suis pas déçu. Si c'est un film d'animation, c'est cool aussi.
Et voilà, ça a l'air très bien. The Witcher, c'est très bien, les animés, c'est génial. Donc le mélange des deux devrait être parfait.
Précise ou pas que ça n'a rien à voir avec la série avec Henry Cavill.
Non.
Bah alors c'est quand même dans le même univers et en lien avec la série de livres. Mais
oui,
ça,
oui.
Ça n'est ni la
ça
suite.
Ça n'est pas
ni
la suite.
Mais j'ai vu quand ce truc-là a été annoncé que des gens se mélangeaient
moi
un peu les pinceaux et pensaient que cette série, dans ce film d'animation, était lié à la série, mais
Il n'y a pas forcément de lien, ça raconte une histoire à un autre moment.
C'est une autre adaptation. Quoi.
Le titre exact est The Witcher, le cauchemar du loup.
Oui.
Et moi aussi, j'ai un hypito, ça concerne encore Netflix, et plus précisément la série Sweet Tooth, dont on vous a parlé le mois dernier. Eh bien, bonne nouvelle, ça a été visionné par 60 millions d'utilisateurs.
La France.
au cours de ces 4 premières semaines d'exploitation, de diffusion. Et ça se classe même dans les 7... non, ça se classe à la 7e position des séries les plus regardées depuis la création de la plateforme. Donc, très beau succès. Il n'y a pas eu d'annonce à l'heure actuelle où on enregistre, mais en tout cas, ça présage d'une potentielle saison 2 qui va se concrétiser. Donc, c'est cool. Tant mieux.
Que je la regarde, moi, du coup.
C'est vrai.
J'ai toujours pas vu.
Voili voilou pour CIPito. On peut maintenant passer aux séries. Avant de commencer, on rappelle bien sûr qu'on spoil dans...
parfois
un petit peu, mais
pas trop quand même.
Si vous ne voulez rien savoir,
passez.
Ce podcast n'est pas fait pour vous. C'est Mathilde qui va commencer avec une série qui parle de prince, je crois.
Oui. J'ai regardé Young Royal sur Netflix qui est sorti le 1er juillet. 6 épisodes de 45 minutes et la série parle du prince de Suède, Willan, qui doit s'adapter à la vie à Willerska, son nouveau pensionnat prestigieux. Mais il doit suivre son cœur et c'est compliqué pour lui. Voilà. du coup, c'est très mignon. Non,
ça a l'air un peu gnangnou raconté comme ça.
Il y a plein de gens qui disaient que c'était très mignon comme série. Alors moi, j'ai trouvé ça très triste, mais chacun fait comme il veut. C'était plutôt une série dramatique. Alors Young Royal, c'est un peu un mix entre une série ado pour ado et The Crow, mais en moins historique, tu vois. On a le côté royauté, mais pas le côté fait véridique.
Parce que ça se passe quand?
Bah, ça se passe à notre époque, mais ça n'existe pas, quoi. C'est pas vraiment le prince. Ça raconte pas l'histoire du prince de Suède.
C'est une fiction contemporaine.
Ouais.
D'accord.
Si vous avez besoin de termes techniques, vous me demandez.
Mais c'est une série suédoise, par contre, quand même.
Ok.
Du coup, Willan, donc le personnage principal qu'on suit, a du mal à être lui-même parce que après une altercation. En fait, il s'est battu dans une boîte de nuit et il se retrouve. C'était ça ? Oh zut ! Il se retrouve à devoir aller dans un pensionnat pour riches, hein, parce que c'est le prince quand même. Et il développe des sentiments pour un de ses camarades qui s'appelle Simon. Mais suite à un drame, il se retrouve à... Il doit être, on va dire, l'héritier du trône. Donc en gros, il est voué à devenir roi. Ce qui change beaucoup de choses parce que jusqu'à maintenant, il pouvait profiter de la vie tranquillement. Et puis là, non, c'est fini. L'histoire tourne autour du fait d'arriver à être soi-même quand on a un statut qui nous dépasse. Willan est certes un prince, mais lui, il veut juste être un jeune homme amoureux qui voudrait vivre une vie normale. C'est une histoire touchante qui montre la jalousie qui peut exister dans une même famille, parce qu'en fait, on voit qu'il y a son cousin qui fait partie de la famille royale qui est jaloux de lui. Ça parle également des stéréotypes qu'ont les riches sur les autres personnes, enfin les personnes normales. Par exemple, Simon, lui, il a une bourse pour aller dans cette école et les autres pensent que c'est un dealer de drogue, tu vois. Alors qu'il n'a rien fait, le type. Sinon, les duos d'acteurs principaux est vraiment très cool. Ils sont tous les deux mignons, ils vont bien ensemble, ça fait un joli couple. C'est une série sympa qui met au centre de l'histoire une relation homosexuelle, donc c'est vraiment bien. C'est, comment on pourrait dire, avant-gardiste. Bravo Netflix. Moi, j'espère qu'il y aura une suite. Et sinon, fait amusant, l'acteur qui joue Simon, donc Omar Rudberg, il s'appelle, il me semble, et c'est un chanteur en Suède. Et il fait de la musique plutôt pas mal. J'ai écouté cet après-midi. Et okay. C'était cool. Et voilà.
Mais est-ce qu'il chante en suédois ?
Non, je crois que c'est plus de l'anglais.
D'accord.
Ou alors, c'était du suédois, mais j'ai rien connu, quoi. Moi, j'ai regardé la série en VF.
Il s'appelait Willan ? Non, je sais pas, parce que du coup, le nom qui était...
Qui s'appelait Willan ?
Tu dis Willan, mais c'est écrit Willem.
C'est pour ça que je me pose la question.
Je l'ai appelé Willan ? Oui. Bah non.
Mais c'est pas grave,
c'est Willem.
Oh. Ça a l'air cool.
Oui, j'ai pas du tout vu. Je savais même pas que ça existait.
Un seul.
Aucun, rien du tout.
J'ai regardé quand il était pas là.
On va passer maintenant à la suite avec une autre série que Mathilde a regardée. Je l'ai regardée aussi. Spoiler alert, j'ai bien aimé. Et... Si tu veux nous en parler, c'est le moment.
Alors la série c'est Mixte, c'est sorti sur Prime Video en juin, donc c'est pas de ce mois-ci, mais on a regardé un peu en retard. C'est 8 épisodes de 40 minutes, ça se passe dans les années 1960. Le lycée Voltaire, jusqu'alors réservé aux garçons, accueille pour la première fois des filles. Elles sont peu nombreuses, mais avec leur arrivée, c'est toute la vie du lycée qui est bouleversée pour les élèves comme pour les professeurs. Qu'en as-tu pensé ?
Eh bien, j'ai vraiment bien aimé. C'est pas mal du tout. La reconstitution d'un petit village des années 60 est bien faite. Je trouve que c'était crédible. Il y avait plein de décors différents. C'était pas, on a trois décors un peu ripoux, petits, étroits. Là-dessus, c'était bien fait. Donc, il y avait des moyens. Les acteurs et actrices sont assez tous convaincants, même pour les jeunes. Tous les jeunes jouent plutôt bien et souvent, c'est pas toujours le cas. J'ai surtout aimé, moi, le double langage de la série, qui parle principalement de féminisme, d'orientation sexuelle, de brassage social dans les années 60. Mais tout ça fait aussi écho au débat qu'on a toujours aujourd'hui, où on voit que plein de choses ont bougé, mais qu'il y a des choses, des choses qui ont finalement pas évolué et qui sont toujours d'actualité. Donc j'ai bien aimé aussi ça. Je trouve que pour la première série Prime Video française, c'est plutôt pas mal du tout.
Ouais, bah, je suis plutôt d'accord. Je trouvais que la thématique de base était vraiment intéressante. Enfin, le fait qu'aujourd'hui la mixité à l'école s'est établie et que c'est quelque chose qu'on est tous habitués, mais y a eu un début et que les débuts c'était peut-être compliqué. Je trouve que le sujet est intéressant. Et en plus, il est traité avec un œil plutôt avant-gardiste et bienveillant. Comme tu disais, il s'appuie sur les stéréotypes de l'époque et ça arrive à faire passer un message porteur d'espoir, d'égalité et d'éducation. De la jante masculine. Et je trouve ça super bien fait. En plus, je trouve que l'acteur qui joue Monsieur Bélanger est vraiment top. Et
oui.
Que tous les messages, je trouve que lui, c'est presque celui qui véhicule le plus de messages positifs envers que ce soit les élèves qui sont en difficulté, sa compagne, enfin tout en fait, même la mixité dans l'école. Et le couple Michel-Alain. Je ne sais pas si tu vois lesquels c'est.
Oui,
ils sont trop
sûr.
Mignons, ils sont trop chouchous. Voilà. Après, la saison 1, elle a une fin ouverte, on peut dire. Du coup, je ne sais pas s'il y aura une suite, mais s'il y a une suite, ils pourront la faire. Mais s'il n'y en a pas, ça ne manquera pas tellement. Quoi. Ça peut rester qu'une saison 1. Quoi. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Oui, oui.
Après, moi, je vais spoiler, clairement.
Oh, oh.
Voilà, je vais le dire, je vais spoiler, clairement. Je trouve ça super dommage qu'à la fin, dans le dernier épisode, en fait, on apprend que le projet de mixité va être abandonné au lycée Voltaire, en fait. En gros, c'est comme si ça avait duré une année, et puis comme ils n'ont pas réussi, ils abandonnent. Et du coup, c'est pas...
Enfin, ils n'ont pas réussi.
Je ne sais pas. C'est de ouf.
C'est relatif.
Non, c'est juste un petit truc, ça ne dit pas l'histoire.
D'accord.
Non, c'est vraiment pas un élément. En plus, c'est balancé un peu en loose day comme ça
Mais c'était pour respecter un truc historique ou c'était pourquoi ?
Non, c'est pas pour respecter un truc historique.
Je pense pas que ce lycée existe particulièrement.
Oui, il doit bien y avoir un lycée Voltaire.
Oui, il y en a même beaucoup, je pense.
Mais c'est après les événements qui sont passés parce qu'en fait, la saison 1, qui se déroule sur 8 épisodes, dure une année scolaire. Donc on commence en septembre, mais on finit en juillet. Et après cette année scolaire, ils décident de ne pas renouveler l'expérience, donc les filles ne retourneront pas dans ce lycée. Mais évidemment, ils le disent en juillet, ça se trouve, il y a d'autres éléments en août, pendant les vacances ou même avant. Après, ça se trouve, ils pourraient très bien faire une saison dure en disant finalement, si les filles reviennent, enfin, c'est possible quoi. Tout est possible.
Ouais. Ça aurait été bizarre d'avoir fini en disant ah, en fait, ou pour donner envie peut-être.
Je sais pas.
Cliffhanger de fin de saison.
Ça fait plus ça quoi. Ça fait plus cliffhanger. Mais non, très très bien. On vous conseille fortement cette série. Pour continuer, on va écouter une bande annonce. Alors attention, elle est en VO, elle est en japonaise. Nous, on comprend couramment la bande, on va tout à fait comprendre. Mais gare à vous. We'll be right back.
ドジャガーの完成を急げ。世界の平和を守るぞ。うちはただの町工場だろ。音楽データの解析結果が出ました。この中に何が隠れてる？アーキタイプ？Bハ博士が研究している変な分子の総称です。不可能を可能にする魔法のランプ。アンギラスは未来を予測してるんじゃなくて直接未来を見てるとしたら破局？この宇宙全体がなかったことになるっていうか。
地下の意志を持った骨。悪夢を広げていく素材か。おそらくあれが破局へと向かう引き金。破局が始まる。
芦原の予言通りというのか。破局自体を何とかしないと。変えることのできない未来をあらかじめ知れたからって何かいいことあんのか。
未来が見える意味。未来を変える方法。あなたはそれを見つけようとしている。いざいかんゴジラ退治。行けジェットジャガー。Du coup, ça c'était la bande-annonce de Godzilla, l'origine de l'invasion. Je ne dirai pas le titre en japonais parce que je ne parle pas très bien japonais. C'est sorti sur Netflix il n'y a pas longtemps. Je n'ai pas regardé la date de sortie
c'est en juin de cette année.
Et c'est la première saison qui contient 13 épisodes de 24 minutes chacun. Ça a été créé par To Enjo. Et c'est une histoire originale. Ça ne reprend pas le concept d'un film ou de quoi que ce soit. Mais c'est dans l'univers des kaiju japonais, qui ont plusieurs versions différentes dans des comics, dans des BD. Donc celle-ci, elle est complètement originale, je pense que ça n'a jamais été raconté. Et donc l'histoire, ça nous entraîne dans le quotidien de Mei Kamino, qui est une chercheuse, et de Yu Narikawa, qui est un ingénieur qui travaille dans une entreprise qui fait un robot pour sauver le monde. Et, et tous les deux font face à une menace sans précédent avec leurs compagnons. Et la menace sans précédent, bah, c'est des kaijus qui sortent de la mer et qui vont attaquer l'ensemble de la planète. Ce qui est un synopsis assez classique.
Oui. Ça fait peur.
Ça fait très peur.
C'est des trucs de kaijus.
Ouais. Mais sauf que du coup, en vrai, il y a beaucoup de trucs mignons qui rendent le truc un peu plus dans un style d'animé... peut-être un peu plus enfantin qu'un truc un peu glauque de film de kaiju vraiment vénère. Et en plus, il y a plein de petits personnages robots qui ajoutent vraiment beaucoup à l'histoire parce qu'ils sont très mignons et très rigolos. Cependant...
j'ai rien dit.
Oui, je sais.
Cependant...
j'ai eu un doute sur la suite.
Cependant, ça parle pas de ça du tout.
C'est un mensonge depuis le début. Non, non, ça parle bien de tout ce que j'ai raconté. Et je vais pas trop en dire parce que ça devient... En fait, vraiment, l'histoire, elle est compliquée, par contre. Je conseille presque de la regarder en VF parce que...
Il y a trop d'explications que j'ai pas compris. C'est ça, t'as pas compris tout ?
Bah, j'ai tout compris en allant relire des articles après.
Oh, ah oui, là, c'est...
Mais après,
c'est
à cause je regarde en VO, mais du coup, de temps en temps, je pars... et quand je reviens, des fois je comprends à peu près ce qui s'est dit parce que je connais des mots. Non, non, mais ça m'arrive de louper 10 secondes de temps en temps. Et vraiment, c'est le genre de truc où si tu loupes 10 secondes de temps en temps, t'es perdu. Ah oui. Alors que c'est un animé en japonais, donc en plus, une fois que t'es perdu, t'es un peu perdu. Et il y a des paradoxes temporels tout plein, il y a plein de gros monstres, des gros robots, et c'est beaucoup d'action.
Oui, bah si c'est des kaijus, ça doit casser dans tous les sens.
Ouais. et des araignées dégueulasses.
Mais c'est toujours cool. Les Japonais ont une manière de gérer les kaijus qui est vachement bien. Bien meilleure que les Américains.
Mais là, en plus, les graphismes, ils sont vraiment beaux, quoi. Ça fait pas genre un gros dinosaure qui sort. Ça fait vraiment des styles graphiques un peu différents.
Est-ce que c'est un peu dégoûtant ?
Ouais.
Parce que pareil, les Japonais, en tout cas au cinéma, ils aiment bien faire des kaijus un peu dégoûtants.
Ouais, bah là, ça rentre bien dans ça. Ils sont pas dégueulasses, mais ils sont plus bizarres et ouais, plus bizarres que ceux qu'on voit
inquiétant
dans les blockbusters.
Dac, cool. Ça a l'air vraiment pas mal. On va écouter encore une autre bande-annonce.
Ton propre appartement, j'arrive pas à le croire. Regarde-toi, t'es devenu un homme et tu pourras t'asseoir dans ce fauteuil quand je t'appellerai en visio tous les soirs.
tous les soirs?
J'ai réussi à descendre de 3 fois par jour à 1 fois par soir. C'est ma meilleure offre.
Les débuts peuvent être douloureux. Mais ça ne les rend pas mauvais pour autant.
Quels sont tes projets, tu sais, après la fac?
Après la fac? J'en ai pas la moindre idée. Je pensais pas aller aussi loin. Ils disent que je risque une période probatoire.
Hé, hey, hey, c'est pas très grave.
T'es sûr?
J'en suis certain.
C'est super grave.
Un de mes oncles a été en période probatoire une fois. Il est en tôle aujourd'hui.
On forme les étudiants pour qu'ils réussissent dans leur carrière. Mais qui leur apprend à suivre leur cœur?
T'es le seul à savoir ce que tu as dans le cœur.
Je risque une période probatoire
parce que je déteste vivre avec Zaïd.
Y a trop de règles! C'est impossible! Je vais m'asseoir dans la baignoire.
Viens à la maison.
Peut-être que je devrais.
Oui!
Et si je pouvais vivre nulle part ailleurs? Et si j'échouais?
Je me dis ce genre de choses tout le temps dans ma tête. Genre que je vais faire un truc débile et tout perdre.
Je me demandais juste si tu comptais le dire à ton père pour toi et Izzy.
J'y ai un peu réfléchi et je crois que c'est...
pas tes oignons.
Toi, tes parents, ils sont tellement derrière toi à te soutenir que ça te rend folle. Ma mère pense que sortir avec des filles, c'est juste une phase. Toi, tu as du monde pour te soutenir. Chez moi, c'est moi qui soutiens tout le monde.
Je peux te soutenir si tu veux.
Au début d'un voyage, personne ne sait à quoi s'attendre.
Tu es prêt.
On peut avoir une vague idée du chemin difficile qui nous attend. C'est ce qui rend les nouveaux départs si excitants. On ne sait pas ce qui va arriver jusqu'à ce que ça arrive.
Isaac Newton, Nikola Tesla, Mozart, tous les plus grands ont renoncé au sexe pour être plus productifs dans leur art.
C'est pour ça que moi aussi j'ai renoncé au sexe.
T'as renoncé au sexe parce que le petit ami de la fille que tu kiffes est dans l'équipe de lutte.
C'était pas la seule chose à rentrer en ligne de compte.
Vous l'aurez compris, on parle d'Atypical saison 4, le grand final. Le grand final, qui est sorti le 9 juillet 2021 sur Netflix. 10 épisodes d'environ 30 minutes. Pour ceux qui ne le savent pas, Atypical est une série qui a été lancée en 2017 et qui s'achève après 38 épisodes. Ça fait pas très beaucoup, 38 épisodes.
Assez peu, ouais, au final.
Mais c'est bien.
Ouais, c'est pas mal du tout. On suit le quotidien de Sam, mais également de sa petite sœur Casey. Je sais qu'il est marqué Casey, mais on dit Casey.
D'accord, on n'a rien dit.
Non, c'est Casey. Et de ses parents Doug et Elsa. Je vais un peu parler de la série, de toute la série, avant de parler de la saison 4 en particulier. Ouais. J'ai débuté, quand j'ai commencé la série, j'ai tout de suite apprécié les thématiques abordées et bien évidemment la thématique du handicap qui est au cœur de la série et qui n'est pas très présente dans le monde, dans l'éventail des séries, si c'est je peux vrai. Dire. Donc, bravo, c'est une bonne initiative. Netflix fait des trucs bien, hein, des fois. sinon, c'est une série feel good, plein d'humour et très très touchante. Donc en gros, c'est vous allez rigoler, vous allez avoir le cœur serré et peut-être vous allez verser quelques larmes de temps en temps. Mais voilà, c'est quand même normalement feel good.
Combien de larmes dans cette saison 4?
J'ai une. Là, le premier épisode, j'ai failli pleurer et à la fin, j'étais pas très.
Oh, que des failles.
Ouais, premier et dernier épisode. J'étais pas très bien. Mais c'était plus tristesse, joie que tristesse.
Mmh. Voilà. Peut mieux faire quand même alors.
Sinon, j'adore. Ils ont fait quelque chose d'intéressant avec la voix off. En fait, il y a la voix off de Sam qui parle par-dessus les images de temps en temps et il raconte plein de belles choses. Un peu comme il a fait au début du générique. Là, je sais pas si vous avez écouté. Mais en fait, il parlait. Et ben en fait, il y a plein de moments dans la série, au début des épisodes, souvent, ils racontent des choses comme ça. Et j'aime beaucoup ça. Ce qui est intéressant également dans la série, c'est qu'elle aurait pu s'attarder seulement sur Sam et son handicap, mais elle parle également de sa famille. Et ça montre ce qu'implique, certes, son handicap pour eux et dans leur vie de tous les jours. Mais également, ça ne s'arrête pas que là-dessus. En gros, on ne parle pas que de l'autisme. On parle également de, bah, d'une vie de famille en général. Du coup, les Garner vivent beaucoup de choses, et parfois en lien avec l'autisme de Sam, mais parfois pas du tout. Donc, ils vivent des périodes de deuil. Il y a également Casey qui se cherche pendant les 4 saisons de la série. Elle se cherche, et puis elle cherche aussi son identité sexuelle. Donc, c'est un long chemin jusqu'au final, où elle arrive à découvrir qui elle est. Les parents de Sam vivent également une rupture, et puis se reconstruisent. Il y a d'autres séparations amoureuses. Ils vivent un deuil. Enfin, il y a beaucoup de thématiques comme ça abordées. Donc, ce n'est pas que l'autisme, c'est aussi une vie de famille plus l'autisme. Mmh. Et ça fait quelque chose de plutôt réaliste. Mmh. Le casting est pas mal aussi, bah, bien évidemment, surtout Sam, qui est l'acteur principal, qui est interprété par... Alors là, il va falloir que vous m'aidiez, parce que je n'arriverai pas à le dire.
Il est où ?
Il est là.
Gilchrist.
Hein ?
Pardon.
Vous direz comment ?
Je dirais Kerr Gilchrist, ou Gilchrist, ouais, mais je pense pareil. Plus pour Gilchrist.
D'accord. Et du coup, c'est un acteur que j'avais déjà vu, moi, dans un film en 2010, qui était Une drôle d'histoire. C'était un film qui parlait de la maladie mentale, déjà.
Il parle que c'est... de films de maladies mentaux.
Bah, voilà, c'était un très bon film que j'avais beaucoup aimé.
Il devait être très jeune en 2010.
Oui, mais ça parle d'un adolescent. Voilà. Je sais pas qu'il agit là aujourd'hui, ou alors c'est qu'il fait jeune et du coup il est beaucoup plus vieux que son âge.
C'est possible, parce qu'il a une tête à faire jeune longtemps.
C'est vrai.
Oui, c'est possible. Le seul petit point négatif qu'on pourrait faire à cette série, c'est que même si elle essaie d'être véridique et de montrer la réalité des choses, bien évidemment, c'est quand même une série romancée. Ce qui fait que certes, on a des fois les hauts et les bas de la vie de Sam en tant qu'autisme, mais c'est quand même romancé, donc c'est sûrement loin de la réalité.
Ouais, bah,
après, ça dépend du niveau d'autisme de la personne, bien évidemment. Mmh. Et après, ce qui est pas mal, l'autre... enfin. Le point positif qui remédie un peu à ça, c'est que on voit d'autres enfants atteints de troubles d'autisme ou d'autres. En gros, il fait partie d'un groupe à l'école où il rencontre d'autres personnes comme lui et tout ça. Mmh. Et donc, on voit plein d'autres personnes avec des handicaps divers et variés. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Enfin, dans cette nouvelle saison, nouvelle et dernière saison de 10 épisodes, Sam quitte le nid et s'installe en coloc avec Zaid, son meilleur ami. Un gros changement. Est-ce que ce final est bon ou pas ? Je déteste les fins de série. Clairement, c'est un fait. Je les aime pas. Je les trouve souvent nuls. Et bah pourtant, celle-ci, elle est plutôt pas mal. Elle est plutôt cool parce qu'elle clôture vraiment l'histoire de Sam, mais toutes les histoires. Et il y a un espèce de fil rouge tout au long de la série qui est vraiment clôturé. Ce qui se passe, il y a un point important au début de la série. En fait, on nous dit que le père de Sam, à un moment, quand il était petit, il est parti de la maison. Donc il a abandonné sa famille, il les a tous abandonnés, sûrement parce que bah, pour lui, que le fait que Sam était autiste, c'était trop. Et du coup...
Attends, c'est quand le père, il avait eu Sam et il a dit « Ah, c'est
bah, il a quitté sa famille. »
Ok, j'avais compris, il fait ça quand il était jeune.
Il a abandonné
non, non.
son rôle de
Il
de
a
jeune
abandonné
père,
son D'accord. rôle de père. Bah, Sam devait être... il devait avoir au moins 2-3 ans quand même. Enfin, il avait déjà été diagnostiqué et tout ça. Et il est parti pendant un petit moment et il est revenu. Et en fait, Sam, il a toujours... ressenti le fait que son père est parti, en fait. Tu vois, il y a toujours eu ce truc en lui. Et il a, même s'il ne le disait pas, bah, il l'a gardé pour lui parce que sa maladie fait que c'est compliqué aussi pour lui de dire les choses et de les ressentir et tout ça. Et grâce à cette série, au final, ce qui est trop bien, c'est que Sam, dans ce final, arrive à... Comment ? Déjà, il a grandi, il s'émancipe parce qu'il part de sa famille, il va dans un appartement avec son meilleur ami... Mais en fait, il découvre dans l'épisode 1, en fait, il a. je suis en train de m'embrouiller, mais il a adopté. Enfin, non, il a adopté. Il a parrainé un manchot au parc aquatique. Mmh. Et il va voir ce manchot au parc aquatique un soir. Et en fait, il regarde dans les yeux de son manchot et il trouve son rêve. Et du coup, son rêve, c'est de partir en Antarctique pour aller faire des dessins des manchots parce qu'il est très doué en dessin et il est passionné de manchots. Comme on sait, souvent les autistes ont une passion qui reste gravée en eux, quoi. Et bah Sam, c'est l'Antarctique, c'est les manchots et c'est le truc vraiment qui est... C'est ça, tu vois. Et en fait, sa fin de saison, c'est toute la préparation de Sam qui va partir en Antarctique.
Et on le voit pas partir ?
Et à la fin, il part. Mais il part pas tout seul, il part avec son père.
Oh.
Et en fait, il part avec son père. C'est comme si la boucle était bouclée. En fait, son père, qui l'avait abandonné à un moment de sa vie quand il était petit, décide d'aller faire ce voyage avec lui pour être là pour lui. Et je trouve que c'était vraiment un message très, très beau. Et sinon, voilà. Le moment où on découvre que Sam, il veut aller en Antarctique en regardant le manchot, c'est là où j'ai failli pleurer.
Et l'autre moment, que t'avais eu ta petite larme.
Ouais. Et l'autre et l'autre moment, c'est quand il dit à sa quand Sam dit à sa petite amie qu'ils vont devoir se séparer parce que lui il part en Antarctique et elle va faire sa vie aussi. Et là il lui dit à ce moment-là que il dit un truc très vrai. En fait, il dit qu'il pensait pas tomber amoureux, il pensait jamais aller à la fac, il pensait ne rien vivre en fait. Être toujours, devoir toujours rester en famille et ne rien pouvoir vivre, et que finalement, et bah, durant toute cette série, en fait, et grâce à toutes les personnes qu'il a rencontrées, et bah, ça lui a permis de pouvoir réaliser son rêve et de faire quelque chose de sa vie. Et je pense que c'est le rêve de toute personne qui qui se sent différente dans ce monde de pouvoir réaliser son rêve. Et du coup, c'était trop bien.
T'es parti en mode Miss France, mais.
Mais c'est dommage, c'était une jolie phrase, une jolie conclusion.
Je me suis emballée, j'ai envie de pleurer.
Mais moi, j'ai vu des bouts, et vraiment, c'est une série que j'aimerais bien regarder un jour. Le temps de te laisser digérer, enfin, laisser un peu de temps, quoi, pas de relancer tout de suite, mais c'est une série que j'aimerais bien regarder, ça a l'air très mignon, très touchant, très, très bien fait.
Et puis, il y a peu de chances que ça soit daté.
Non, franchement, il n'y a pas de truc temporaire particulier, quoi.
Faut qu'il reste des manchots. Quoi.
Oui, ça devrait aller, je pense. Bah justement, en fait, le but de Sam, c'est de partir en Antarctique parce qu'il pense que dans 50 ans, tous les manchots sont morts. Donc en fait, il veut y aller et réaliser des dessins de la vie des manchots pour que les humains gardent une trace de ces animaux s'ils disparaissent un jour. Voilà, c'est beau.
Eh bien oui, merci beaucoup. C'était très chouette de t'entendre parler d'Atypical saison 4. On va changer d'ambiance maintenant avec Mage et Sorcier, les contes d'Arcadia.
C'est vrai que du coup, je me rends compte que moi, je fais des petites interruptions dessins animés au milieu de trucs super tristes que vous avez regardés.
C'était pas triste?
Non, alors un petit peu.
Non, c'est des joyeux.
Les manchots vont mourir. Son père l'a laissé quand il était petit. Non, je veux bien croire que la série est feel good, mais les thématiques sont un peu...
Bah, c'est des thématiques de la vie, et je pense que c'est pour ça que c'est...
Oui.
Il y a des émotions.
Je dis pas le contraire.
Tu me regardes bizarrement.
Non, mais j'ai rien dit, moi. Ça me fait rire, cette remarque, c'est... Mais voilà, je t'en prie, Damien, parle-nous de cette série d'animation.
Du coup, la série, c'est Mage et Sorcier, je sais plus si je viens de le dire, donc je le répète. Les Contes d'Arcadia, donc la saison 1... mais il y en aura sans doute qu'une, est sortie l'année dernière sur Netflix. C'est 10 épisodes de 24 minutes, et c'est toujours créé par Guillermo del Toro, parce que, comme la deuxième partie du titre, c'est les Contes d'Arcadia...
Ça se passe à Arcadia.
Ça se passe à Arcadia, et donc c'est la suite de Chasseurs de Trolls et de Le Trio Venu d'ailleurs. Chasseurs de Trolls qui était sur Le Chasseur de Trolls.
Attendez, vous voulez dire qu'il y a un Guillermo del Toro Cinematic Universe?
Oui, sur Netflix,
et
ouais.
Et que personne ne le sait.
Si, il y a
quand même
sais.
Trois séries et un film maintenant.
Moi, je suis en train de me regarder la saison 2 ou 3 de Chasseurs de Trolls pour justement rattraper mon retard et pouvoir regarder tout ça.
Ok.
J'ai repris cette semaine.
Et ouais, et en même temps que Chasseurs de Trolls au niveau temporel, se déroule la partie du trio Venu d'ailleurs. C'est en même temps.
C'est des extraterrestres.
Ouais. C'est des extraterrestres qui arrivent à Arcadia.
Non, mais je sais à peu près que ça existe, mais okay. Je trouve ça fascinant et intéressant comme univers.
Ouais, le principe est sympa en plus.
Mélanger de la SF et de la fantasy, ça se fait pas beaucoup.
Et du coup, Mage et Sorcier, c'est la suite de ces deux premières séries. Ça se concentre sur l'apprenti de Merlin qui se joint au héros d'Arcadia dans une aventure qui défie le temps à Camelot. Donc on a un gros... j'ai oublié le mot. On va dans le temps, dans le passé. Il y a un nom.
Un flashback.
Voilà. Non, c'est pas vraiment un flashback. Non. Ils vont dans le temps. En fait, il y a pas de mot.
Un voyage dans le temps. Oui, il y a pas de mot.
Donc, on voyage dans le temps au moment où les humains, les trolls et les créatures magiques en général étaient pas du tout en accord et se battaient entre elles. Et les trolls en général, pas juste les méchants trolls de Chasseurs de Trolls. Tous les trolls étaient méchants. Et d'ailleurs, l'apprenti de Merlin, c'est Isildur Dux, qui est le petit gars avec qui tient le café à Arcadia.
Ah ouais ?
Ouais. On l'apprend dès le début, donc c'est pas vraiment un spoil.
Bah, je regarderai de toute façon.
Ouais. Et donc, au niveau intérêt de la série, c'est plutôt limité.
Merde.
C'était pas super intéressant.
C'était juste pour rassembler tous les persos, quoi.
Je pense qu'il
y
avait de ça, et le fait de présenter les nouveaux super méchants qui arrivent, et de dire ça va être eux les gros badass qu'il va falloir tuer dans le film. Je pense que ça va être ça l'idée. Ouais, il n'y a pas grand chose à raconter sur l'histoire.
D'accord, après 10 épisodes, ça va, ça passe vite.
Oui.
Il y a des bastons. Un peu de magie. C'est sympatoche.
Et du coup, on voit les chasseurs de trolls dedans.
Oui, oui. Il y a une petite histoire autour de lui, mais là, vraiment, je peux rien trop dire sans spoiler. En fait, on le voit pas tant que ça, du coup. James. On voit surtout Isirdou et...
Jim.
Et j'ai oublié le nom de la fille, parce que je suis un peu nul en nom.
On peut passer à la suite avec une série Netflix, une saison 2. Et c'est Mathilde qui a regardé.
Oui, du coup, je vais vous parler de la saison 2 de Mes Premières Fois, qui est une série qui était sortie l'été dernier sur Netflix. Et donc là, la saison 2 est sortie avec 10 épisodes d'environ 30 minutes. Pour rappel, Mes Premières Fois, on suit la vie de... Comment elle s'appelle ? Ah bah, je l'avais noté. Je l'ai plus. Devi, voilà, c'est bon. De Devi, une jeune lycéenne qui est d'origine indienne et qui vit aux États-Unis. Et l'histoire est inspirée de l'enfance de Mindy Kaling. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était Kelly Kapoor dans The Office.
Ah, je me demandais pourquoi il avait écrit Kelly Kapoor.
Ben voilà, tu
sais
maintenant.
Je me disais, ce n'est pas une actrice.
C'est elle qui a créé cette série.
D'accord.
Alors, pour rappel également, j'avais adoré la saison 1. Je peux même dire que je l'avais énormément, giga, méga, surkiffé. C'était un énorme coup de cœur. Vraiment, c'était genre une de mes séries favorites de l'année dernière. Alors, est-ce que la saison 2, elle est bien ? Que devient Devi Paxton et Ben ? Deviennent plutôt Devi Paxton et Ben ? Et ben, en fait, ils ne deviennent pas grand-chose. Et je suis un petit peu déçue. Dans la saison 1, Devi faisait déjà des choix peu judicieux, clairement. Elle faisait n'importe quoi. Mais dans cette saison, elle est encore pire. Vraiment, elle fait des trucs qui craignent vraiment beaucoup. Après, le point positif, c'est qu'on a vraiment l'impression de voir une ado paumée qui fait n'importe quoi. C'est sûr qu'avec mes yeux de vieille personne de bien de 30 ans, et les vôtres aussi, je tiens à le dire, avec mes yeux de personne mature et adulte, j'ai tendance à me dire qu'elle fait vraiment n'importe quoi. Mais en y repensant, à son âge, je faisais clairement pas mieux. Mais vraiment, j'ai fait des conneries à peu près du même niveau et des choix à peu près aussi judicieux. Donc, je me dis que ça doit sûrement être réaliste. Je pense qu'on a vraiment affaire à une ado, en fait, qui est en première, je crois. Clairement, ça fonctionne. Mais malheureusement, la nouveauté et la magie qui avait fait battre mon cœur dans la saison 1 a un petit peu disparu. Du coup, j'étais un peu déçue. Certes, les 10 épisodes sont quand même bien. Je les ai regardés, ça passe vite, mais ils sont pas à la hauteur de la saison 1. J'espère tout de même retrouver nos protagonistes pour une saison 3, histoire de savoir si le choix de Devi en matière de garçon est le bon, même si je suis convaincue que la réponse est non.
Dac, merci. On va encore changer d'ambiance avec une autre série, j'imagine, d'animation japonaise encore.
Perdu.
Oh, bah, ok. C'est... Ah oui, non, c'est vrai. Pardon. Allez, je te laisse en parler.
C'est une série d'animation chinoise qui s'appelle Le quotidien du roi immortel, qui est sortie sur Netflix en 2020. Ce qui est bizarre, mais bon, pourquoi pas. C'est la première saison. C'est 15.
Tu veux dire que les Chinois, ils avaient autre chose à penser en 2020 ?
Bah, en plus. Non, c'est bizarre parce qu'il ne me semblait pas l'avoir vu avant, alors que c'est un truc que j'aurais regardé si c'était sorti avant. Mais c'est peut-être juste dans ma tête. Donc, il y a eu 15 épisodes de 18 minutes qui sont sortis. C'est fait par les studios Howliners Wimeng Animation, que je ne connais pas. Je n'ai pas réussi à trouver le nom du créateur. Donc, je me suis contenté du studio qui l'a créé.
C'est déjà bien.
Ouais. Du coup, Le quotidien du roi immortel, ça raconte l'histoire de Wang Ling, qui a développé depuis son plus jeune âge d'incroyables capacités. Cependant, il veut quand même mener une vie ordinaire, donc il a confiné ses pouvoirs dans un talisman. Enfin, son papa lui a fait un talisman pour confiner ses pouvoirs. Et malgré ça, c'est quand même genre la personne la plus puissante de la Terre. Donc son quotidien, il peut être modifié une fois qu'il rentre au lycée et qu'il y a un peu plus de situations stressantes. Ce que j'ai pas du tout dit avant, c'est que ça se passe dans un monde où tout le monde a des super pouvoirs.
C'est ce que j'allais demander.
Ouais. Voilà. Sauf que la majorité des gens, comme d'hab, ont des pouvoirs un peu nuls. Et lui, vraiment, il a le... cherche une métaphore, mais il y en a pas. Juste, il est plus fort que tout le monde sans aucun égal possible. Il hâte absolument tout le monde. Voilà.
Quel est le rapport avec le titre, par contre ?
Bah, en fait, le roi immortel, c'est lui, et ça raconte sa vie quotidienne.
Ah bon, d'accord. Accessoirement. Ça sent un peu le titre français.
Oui.
Pas ouf.
J'ai préféré prendre la traduction que me risquer à donner le titre chinois. Et alors, par contre, moi, j'ai bien aimé dans l'ensemble toute l'histoire. Globalement, ça raconte son quotidien au lycée. Il se passe. Il a quelques petits déboires quand il doit utiliser ses pouvoirs sans pour autant griller sa couverture d'adolescent normal. Donc des trucs un peu classiques dans ce genre de choses. Mais vraiment, on dirait un copier-coller d'un animé japonais qui est vraiment génial pour le coup, qui s'appelle Saiki Ksuo, qui est sorti il y a plus longtemps. Et c'est exactement, parce que pour le coup j'ai été revérifier les deux synopsis, c'est la même histoire. Un gars qui est trop fort, qui peut détruire le monde si jamais il fait un cauchemar. Et son père lui fait un talisman pour éviter que ça soit le cas. Et il veut aller au lycée, avoir une vie normale. Donc j'ai bien aimé, mais l'animé japonais est mieux, quoi. Donc quitte à regarder, hein, regardez l'animé japonais.
On fait des recos maintenant ici. Non, c'est bien, c'est bien.
Bah, c'est juste que, enfin, on dirait vraiment un copier-coller, quoi.
C'est peut-être un remake chinois.
Bah, j'ai été fouillé, mais j'ai pas trouvé beaucoup d'infos.
Pour enchaîner, on va écouter une bande-annonce.
En VO ou en VF ?
En VF.
Nous avons un dicton sur Asgard. Quand on voit les oreilles du loup, ses dents ne sont pas loin. C'est un piège.
Il ment. Il nous manipule.
J'ai failli me faire avoir.
Loki,
moi aussi, j'ai les oreilles pointues.
Voilà le topo.
Un variant en fuite tue nos minuteurs depuis un moment. Nous ne l'avons pas trouvé par nous-mêmes. Alors on a besoin d'un expert.
C'est moi.
Ce criminel peut être n'importe où, n'importe quand. La prudence s'impose. Tout ce que nous ferons peut impacter le cours de l'histoire. Vous comprenez ? Loki ! Loki !
Pile à l'heure !
Les gardiens du temps supervisent le moindre aspect de cette affaire. Te fier à lui n'est pas une excellente idée.
Aucun homme mauvais n'est totalement mauvais. Et aucun homme bon n'est totalement bon.
Ça n'a rien à voir avec toi.
D'accord.
Loki, attendez !
Dire que je croyais bêtement que vous pouvez être n'importe qui, même quelqu'un de bien.
Je devrais être protégé, pas me sentir en danger. C'est presque insultant.
Vous ne changerez donc jamais, hein.
Ce mois-ci... Ouais, le mois d'avant aussi, on a tous les trois regardé Loki.
Non, moi juste ce mois-ci.
Damien avait du retard. C'est mon sujet du mois. Donc c'était la saison 1 qui s'est achevée au mois de juillet. Il y a eu 6 épisodes de 45 minutes. C'est dispo sur Disney+. Je sais plus si je l'ai dit. Ça parle de Loki donc. Et l'histoire prend place en 2012 après que le Loki de 2012 se soit échappé avec le Tesseract. Ceux qui n'ont pas vu Avengers Endgame ne peuvent pas comprendre ce que je viens de dire.
Mais en même temps, peut-être aller les voir.
Oui,
n'écoutez pas.
Accessoirement. Après son évasion, il est emmené auprès du tribunal des variations anachroniques, ou TVA, et je trouve que le nom anglais est mieux, c'est TVA. Time Variance Authority. C'est un organisme qui agit pour arrêter toute personne qui tenterait d'altérer le passé ou le futur et qui protège l'éternel flux temporel. Est-ce que vous voulez en parler avant que moi j'enchaîne Eh bien, allons-y.
Alors, c'est la troisième série de Marvel qui est sortie sur Disney+. Et c'est ma préférée.
Attends. Est-ce qu'on compte pas la série d'animation avec le méchant?
Non. C'est pas MCU, là.
C'est vrai?
Non.
Ok, autant pour moi.
Il y a une série d'animation. Vous me dérangez, monsieur.
Du coup, oui, c'est la troisième série que sort Disney+, dans l'univers Marvel. Et bah, pour moi, c'est ma préférée pour le moment. Alors que pourtant, j'aime pas spécialement Loki. Dans les films, c'est un personnage que je... Voilà.
Mais là, il devient romantique. Et
attends, j'ai pas fini. Je disais que je ne l'aimais pas tellement. À part, la seule chose que j'aimais bien dans ce personnage, c'est que j'aimais bien la façon dont il parlait. Tu vois, il fait des répliques intéressantes. Enfin, il a toujours l'air intelligent.
Il est en punchline noble.
Ouais, tout le temps.
Et j'aime bien. Mais j'aimais déjà bien avant, tu vois. Mais voilà, j'aimais bien. Mais sinon, bof bof, le perso, quoi. Et ils ont réussi à me faire apprécier un personnage dont je me foutais royalement. Donc
oh
je
oui,
pense
carrément.
Que... désolé, quand il est mort, j'ai pas pleuré, quoi. Enfin, quand il est mort dans la version... Voilà. Donc, voilà. Sinon, j'ai beaucoup aimé tout ce qui était autour du TVA. Les costumes, l'univers, la madame qui montre, comment elle s'appelle, Miss Minute.
Tout à fait.
Oh là là, j'ai trop adoré Miss Minute. Je veux un pin's de Miss Minute.
Ouais, elle est un peu passive-agressive à la fin, Miss Minute.
Ouais, c'est vrai. Je trouve qu'elle me ressemble un peu des fois. Passive-agressive, c'est
moi. Moi, je veux un pin's de Mathilde alors.
En Miss Minute. Je me déguise en Miss Minute.
Le meilleur déguisement d'Halloween, Miss Minute.
Mais oui.
J'ai beaucoup aimé qu'il y ait plein de Loki différents. Surtout, alors, dites-moi, c'est un crocodile ou un alligator?
C'est un alligator.
Ah, c'est un alligator, dommage.
Évidemment.
Parce que alligator,
J'ai vu un jeu de mots très drôle sur Twitter. C'était
s'il y a un
crocodile Loki, y a-t-il un alligator?
Mais c'est pas un crocodile, malheureusement, c'est un alligator.
Moi, je crois que c'est un alligator.
Donc c'est un Loki-tor.
J'avoue que le jeu de mots, sinon, il était très bien.
Donc ça, j'ai bien aimé tous les Loki différents, ils m'ont plu. Le seul petit truc que j'ai pas aimé, c'est qu'il y a un épisode en particulier où je me suis un peu ennuyée. C'était l'épisode où ils étaient sur la planète où c'était la fin du monde.
Quoi ?
Mais il est trop bien cet épisode.
3.
Je l'ai trouvé lent. Lent.
Je suis pas totalement d'accord. Il permet en fait de créer.
Il permet de créer le lien qu'il y a entre Sylvie et Loki, mais.
Non, mais même l'histoire est bien. Ils vont mourir et tout.
Mais non, mais c'était sûr qu'ils allaient pas mourir.
Non, mais moi je m'attendais vraiment à ce qu'ils se fassent écraser. Et...
Non, mais arrête.
Et qu'elle ait un nouveau Loki qui allait arriver.
Damien, tu es crédule.
Attends, ils ont bien tué Owen Wilson. Je veux dire,
mais oui, mais m'envoie plus jamais de texto en me disant qu'il est mort. Comment un texto en me disant il est mort? Hein? Tu parles de la série? Oui, il fallait préciser. Je crois qu'il était mort pour de vrai. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.
Qu'en as-tu pensé, Damien, vu que tu n'as pris aucune note
sur Loki? C'est vrai, j'ai complètement oublié.
Je pensais y aller au feeling.
Je réfléchis. Enfin, non, pas vraiment. Non, mais
en fait, parle, je pense...
Non, mais ça va, hein, je sais quoi dire. Juste, bref. moi, j'ai bien aimé la série dans son ensemble. Par contre, je trouve pas qu'elle soit particulièrement mieux que WandaVision. Enfin, si on devait les classer, quoi. Genre, le Faucon et le Soldat de l'Hiver sont en dessous.
Oui.
Parce que ça fait plus série classique d'action classique, quoi. Mais de là, dire que ça, c'est mieux que WandaVision, je suis pas convaincu. En fait, le seul truc qui fait que c'est un peu mieux, c'est que la thématique, elle est beaucoup plus grosse et qu'il y a un peu plus d'enjeux, quoi.
Et qu'il n'y a pas une méchante nulle.
Ouais, c'est vrai.
Qui sert à rien.
Faut dire que là, il n'y a pas vraiment de méchants.
C'est peut-être ça qui vient. Ouais.
Est-ce que Loki n'est pas son propre méchant?
C'est ça.
Et du coup, moi, j'ai bien aimé qu'il y ait plein de retournements de situation dans cette série.
Est-ce que j'ai compris la fin? Je suis pas sûre. Des fois, je me dis ça.
Bah, mais c'est comme ça. T'as compris quoi, du coup?
J'ai compris quoi?
Ouais.
Je me rappelle plus.
Je veux pas prendre de risques. Bah, la fin, c'est que les branches du temps, elles se recréent, donc le multivers réapparaît.
Est-ce qu'ils ont cassé tout le MCU?
Sans doute.
Ah, merde.
Pas forcément, parce que dans le MCU, il y a un multivers, normalement.
Pour l'instant, non.
Non.
Bah, Spider-Man. Non. Morales.
Non, mais ça passe. Mais
c'est
pas
dans le
MCU. C'est pas dans le MCU. Ça fait partie d'un truc à part.
Ok, bon, je vais pas argumenter. j'ai pas grand chose de plus à dire.
D'accord. Eh ben, moi aussi, c'est ma série Marvel Studios préférée. Et je l'ai préférée à WandaVision. Simplement parce que c'était plus ambitieux. WandaVision était plus ambitieux visuellement. WandaVision était ultra cool, mais dès que fallait que ça parte un peu en bagarre, ça a atteint ses limites. L'épisode final de WandaVision est il manque un peu de ça manque un peu de punch quoi. Alors que là, on en a parlé, l'épisode 3 de Fin du monde, une claque incroyable. Visuellement, il est exceptionnel, cet épisode.
Cet épisode chiant où ils sont sur une planète entièrement, complètement créée, et où une lune atterrit sur la planète.
Mais il est beau visuellement. J'ai
le
rien
plan
à...
séquence de la fin, maman.
J'ai rien à dire, je le trouve vraiment beau.
Mais je pense
visuellement.
Que tu l'aurais vu genre au cinéma, tu te serais dit « Oh, il y a une belle esthétique et tout. »
Oui,
comme
voilà.
Là, tu le vois à la télé,
y a
tu
une
te
belle
dis
esthétique.
Bon, et la suite.
Non, non, il y a une belle esthétique, il n'y a pas de souci. C'est juste que je trouve que ça ne faisait pas avancer l'histoire.
Non, c'est un épisode... c'est pas vraiment un filler, mais c'est un épisode qui prend son temps, qui sort un peu de l'intrigue principale. C'est vrai.
Bien sûr que c'est vrai.
Néanmoins, c'est un épisode qui m'a fait beaucoup penser à Doctor Who.
Oui, ça c'est vrai.
Et même toute la série fait quand même pas mal penser à Doctor Who, parce que ça parle de voyage dans le temps, un peu de voyage spatio-temporel, tout ça. Enfin, c'est.
Puis à Loki, il a un petit côté anglais en plus.
Oui, bah Loki, oui. Je crois que Tom Hiddleston est britannique. Ouais. Et donc,
oui.
Du coup.
Peut-être le prochain Docteur.
Peut-être le prochain James Bond, mais ça, on sent pas du tout le débat. J'avais très peur, malgré tout, de cette série, pour une seule raison, c'est que ce Loki n'existe plus à la fin d'Avengers 4. J'ai pas envie de relancer le débat, mais moi, j'estimais que ce Loki n'existait plus. Heureusement, en 20 minutes, il règle le problème, puisque la série impose des règles. En termes de voyage dans le temps, d'arc, pas d'arc, mais de réalité parallèle, tout ça. Donc ça marche très bien. La série va très loin dans son concept, avec tous ces variants Loki, et vous en avez parlé, le crocodile, l'alligator Loki, le Loki vraiment, le vieux Loki des comics. Quand je l'ai vu, j'ai halluciné.
Pour le coup, c'est à peine exploité, presque. Parce que...
Ouais. Mais on comprend qu'en fait, il y a un... Il y a plein de Loki, il y a un multivers qui existe. Enfin, je trouve ça vachement bien. Tom Hiddleston, il est grandiose. Le gars est en roue libre. C'est ça, il s'amuse. Enfin, ça se voit que le gars s'éclate quand on lui donne enfin la pleine mesure de ses moyens d'exploiter son personnage à fond. C'est trop cool. Et c'est la version préférée de Loki qu'on ait vue, je trouve.
Dans quel sens? Ah,
Vraiment de ce Loki qu'on connaît, quoi.
Ah oui.
Qu'on a vu dans les différents films, je trouve que là
il est vraiment, enfin c'est,
il est lui quoi.
Il a un peu plus de place en plus.
Ouais c'est ça, il a plus de place. Son duo avec Sylvie, son alter ego, son variant féminin, interprété par Sofia Di Martino, est pareil, il fonctionne très très bien.
Je trouve que ça lui va bien d'être à moitié amoureux d'elle.
Ben oui.
Parce qu'il est tellement narcissique que ça lui ressemble.
Mais je trouve que c'est ça. Il y a un truc qui est très intéressant. Enfin, c'est Loki qui ne peut finalement tomber qu'amoureux
de
lui-même. C'est incroyable comme idée. Fallait y penser, mais au final, quand on l'a, on fait, ben oui, ça ne peut que marcher.
Ça fonctionne.
Et puis, on en a parlé un petit peu. Celui qui est mort, Owen Wilson, comme d'hab, il a une vraie sympathie, ce monsieur. Vraiment parfait. Et pour terminer. J'aime beaucoup cette série parce que elle bouleverse le MCU, puisque comme on l'a dit un petit peu, elle déclenche le multivers dans le MCU. Et ça, on se demandait, en fait, on l'attend depuis WandaVision, on se demandait quand est-ce que ça allait arriver et comment ça allait arriver. Je trouve que c'est vraiment très bien fait d'utiliser ce concept-là pour parler du multivers. C'est pas gratos, ça fait pas bon, il y a un multivers qui existe. Voilà. C'est pas gratos, donc ça c'est vachement bien fait. Et pour info, on reverra le méchant Kang le Conquérant, le monsieur qui fait un monologue à la fin.
Que pas vraiment méchant. Hein.
Cette version n'est pas vraiment méchante, mais ouais. On comprend, il le dit, qu'il y a des versions bien pires que lui, des variants bien pires que lui qui existent. Donc, et on le reverra dans Ant-Man 3, qui s'appelle Ant-Man and the Wasp Quantumania, qui sortira en 2023, donc on a un peu de temps. Mais on le reverra à ce moment-là et bah ça s'annonce très excitant tout ça et ça va à mon avis commencer le multivers dès cet automne avec Spider-Man 3.
Peut-être que ça sera un film d'Ant-Man où je m'ennuierai pas.
C'est possible, c'est possible.
Je crois que c'est les seuls films où...
Le premier est très bien.
Non, c'est les seuls films où à chaque fois je me dis...
C'est des bons moments mais ils sont pas hyper importants. Mais ça reste des meilleurs films que Iron Man 2, par exemple, ou L'Incroyable Hulk, ou Thor 1.
Et là, il va tous nous les énumérer dans l'ordre de préférence.
J'ai fini, on va pas repartir dans un débat MCU. On en a déjà trop fait dans ce podcast. On peut enchaîner maintenant. J'ai fini de parler de Loki et on va parler d'une autre série. Et cette fois, c'est une série que Damien a regardée.
Oui, et c'est la seule qui n'est pas une série d'animation.
Et c'est une série française.
Et c'est la seule qui est une série française.
Du non, coup, c'est pas la seule série qu'on a parlé française.
C'est la seule que moi j'ai regardée qui est une série française. M'embrouille pas. Bon, j'en parle un peu tôt parce que j'ai pas encore vu toute la première saison. J'ai vu 4 épisodes sur 6. Donc j'aurais pu me dire j'attends la fin de août, mais j'avais envie d'en parler maintenant parce que j'ai bien aimé. Et du coup, je suis encore dans l'engouement du début. Donc c'est une série qui est sortie sur Netflix en 2019. Il y a 6 épisodes dans la saison 1 de 45 minutes et il y a de nouveau 6 épisodes dans la saison 2 de 45 minutes.
Qui vient de sortir ici, je me trompe.
Ouais, ça, c'est sorti il y a pas longtemps, c'est pour ça que ça me l'a ramené.
L'algorithme a fait son travail.
Et ça a été créé par Frédéric Garcia. Donc l'histoire, c'est Sofiane, un lycéen, décide de partir à la recherche de son frère aîné Reda qui a disparu. Il fait la rencontre au lycée d'un étudiant timide qui s'appelle Victor. Victor qui a fait une tentative de suicide quelque temps avant. Et un jour, Sofiane tombe contre son gré sur Obé, un dieu vaudou qui va lui proposer un pacte pour comprendre la disparition de son frère aimé. Son frère aîné et aimé aussi, mais...
Oh, c'est beau.
C'est rattrapé. Pour cela, il va lui transmettre des pouvoirs surnaturels à lui, mais aussi à Victor, et leur vie va alors changer.
À jamais.
À jamais.
Forever.
Ça va de se moquer des synopsis. Alors, du coup, l'histoire, c'est globalement ça.
Ça tombe bien.
Sauf qu'en vrai, ça parle surtout de relations adolescentes. Ils sont au lycée, Sofiane et... Oui, c'est précisé. Ils sont lycéens. Mais ça parle vraiment juste de ça, en fait. C'est des relations entre Sofiane, qui est plus un gamin à problème, qui vole des scouts, qui fait des petites conneries au lycée. Et Victor, qui est un étudiant qui a l'air assez classique, mais juste très dépressif. Et par contre, en fait, ce qui n'est pas précisé, c'est que leur pouvoir surnaturel, pour qu'il fonctionne, il faut qu'ils soient tous les deux. Et donc, ils forment un couple pendant toute la saison qui passe leur temps à essayer de dialoguer, de marchander pour que chacun puisse utiliser ses pouvoirs pour ce dont lui, il a besoin. Voilà. Victor a des buts et Sofiane aussi. Et donc, ils sont toujours obligés de négocier entre eux parce qu'ils ne s'entendent pas forcément très bien au début pour faire en sorte que tout fonctionne bien. Sinon, on a vraiment l'impression de... Obé, il est vraiment très, très impressionnant. J'avais un peu peur en voyant que ça parlait de vaudou, que ça soit des poulets qui... un truc un peu cliché, quoi. Et du coup, c'est... la réelle, elle est classe, en fait.
Est-ce qu'il avait un os dans le nez ?
Alors, il a pas d'os dans le nez. Ah, par ça contre, va. Si tu veux regarder... Ben non, tu peux pas. Mais si t'as une tablette, si tu veux regarder à quoi ressemble Obé, il fait... Enfin, tu sens qu'il n'y a pas forcément des masses de moyens pour les effets spéciaux, mais en fait, il fait flipper le premier épisode. Moi, j'étais tard le soir et j'ai eu un peu peur. Je me suis couché en regardant
en
les Simpsons avant, histoire de me changer les idées, parce que ça m'avait chagriné.
Chagriné,
ouais. Et voilà, on suit tout le long le fil rouge de « on cherche le frère aîné de Sofiane », mais ça parle vraiment de plein d'autres choses. Et c'est une bonne série sur pas forcément les banlieues, mais en tout cas la région parisienne et le fait d'être au lycée dans ces coins-là. Mais voilà, moi j'ai beaucoup beaucoup aimé.
J'ai pas du tout entendu parler de cette série.
Tu sais, quand elle est sortie, moi j'avais entendu parler en 2019. Mais j'avais sur le coup, je m'étais dit je vais la regarder. Et puis, bah, comme souvent, ça passe à la trappe.
Bah, ça vaut le coup de la regarder maintenant.
Yep, je note. Je prends note.
On va regarder pour Halloween.
Si ouais, ça fait c'est peur. Pas mal pour Halloween.
D'accord.
Après, je précise, il y a quand même des poulets tués.
Ah, voilà. Super. Du vaudou, vraiment vaudou.
Bah, un peu.
On va enchaîner sans transition. J'en cherchais une, mais il n'y a rien qui est venu.
Il n'y a rien du tout.
Avec... Attends, on peut chercher.
Non.
Est-ce
qu'ils tuent des poulets dans des parcs?
C'est exactement ce que j'ai essayé, mais ça ne marche pas. Il n'y a pas
Ils
beaucoup
de parcs. Ils ont tué des poulets dans c'est les vrai. Parcs.
Et dans non. les parcs, il y a certainement Leslie Knope qui s'y promène. On parle bien sûr de Parks and Recreations sur Netflix.
Non, sur Salto.
Sur Salto, pas du tout. C'est écrit en dessous.
Saison 1 et 2 avec une petite saison 1 de 6 épisodes et une grosse saison 2 de 24 épisodes.
Dis si tu veux que je m'en aille pour finir.
C'est que j'ai vu que tu galérais.
Pas bon. Ça parle du quotidien, voilà, des employés du département des parcs et loisirs de l'État de l'Indiana dans la ville fictive de Pawnee. L'intrigue est surtout centrée sur la directrice adjointe, Leslie Knope, donc, qui a de grandes ambitions professionnelles et politiques. Qu'en penses-tu alors, Mathilde ?
Alors, moi, j'aime beaucoup. Alors, comme tu vas sûrement le dire, c'est créé par le monsieur qui a fait The Office.
Les messieurs
qui ont fait The Office. Donc, on pourrait dire, c'est un copier-coller de The Office, mais dans la fonction publique. Mais moi, je trouve pas du tout. Je trouve que ça a plein de différences et que ça fonctionne à part entière. La saison 1 était un peu courte, mais c'était une bonne introduction. Mais j'ai clairement préféré la saison 2, où on découvre mieux les personnages. Et c'était vraiment très amusant. Je dirais même hilarant. J'étais morte de rire. C'était très, très bien. J'adore Leslie. April, elle fait très, très peur, mais je l'aime bien. Et Andy qui est Chris Pratt.
Qui est joué par Chris Pratt.
Andy qui est Chris Pratt, mais dans un autre univers. Voilà, ça c'est comme dans le MCU, c'est un Chris Pratt, mais dans un univers
c'est
parallèle.
Si Star-Lord n'avait jamais été capturé par des extraterrestres, ouais. Il serait devenu Andy.
Peut-être que ça aurait été ça, et c'est grave.
Et si son père n'avait
étrange.
Pas été un extraterrestre.
Oui,
on dirait que c'est pas lui.
Moi j'ai vraiment l'impression de voir le cousin Crado. Ou le frère jumeau Crado de Star-Lord.
C'est vrai. Et du coup, bah moi, j'ai hâte de voir la suite et on va continuer parce que c'est vraiment très cool.
C'est très marrant.
Combien de saisons ?
7 ou 8.
Ah ouais, ok.
J'ai pas grand-chose à dire de plus. Je trouve ça aussi très drôle. On retrouve bien sûr le côté malaisant et grotesque des personnages de The Office. Mais voilà, après 9 saisons de The Office US, bien sûr, c'est compliqué de pas comparer. Et
c'est ta manière de dire que c'est moins bien.
Bah, moi, je trouve
non,
que
oui,
c'est
bah peut-être. J'accroche moins bien parce que j'ai trop The Office en tête et je suis trop marqué par The Office.
Bah pourtant, je trouve que ça c'est moins malaisant.
Il y a moins de moments malaisants. Les personnages sont moins problématiques.
Leslie Knope et Leslie Knope, c'est pas du tout Michael Scott.
Non, mais
elle
voilà,
a rien à voir avec lui.
Non, ils ont pas. Heureusement, ils ont pas cherché.
Et même
c'est
vraiment le fait que ça se passe dans la fonction publique. Mais moi, je suis morte de rire à cause des gags sur les bibliothèques. Je crois. Enfin,
ça, c'est
rien
très
que
drôle.
Ça, j'en peux plus. Moi. Mais ça a refait ma journée. Mais il y a plein de petites choses comme ça et le chef du... Comment il s'appelle? Le chef du service est incroyable.
Ron Pellman.
Est incroyable.
L'homme à la pelle.
Il est vraiment incroyable, le monsieur à la moustache qui mange des tonnes de carcasses de viande. Non, vraiment, c'est une très bonne série.
Tu dis des carcasses de viande quand tu parles des gens qui mangent de la viande maintenant.
Des carcasses de viande.
Ils mangent des carcasses d'animaux.
C'est ça.
Enchaîner en parlant de fonctionnaires encore, mais cette fois en Europe. Avec une autre série dispo sur Salto et aussi accessoirement sur France.tv, la plateforme France.tv. Donc vous pouvez regarder cette série gratuitement. C'est pas un instant promo, c'est une précision. Il s'agit de Parlement, la saison 1, qui compte 10 épisodes de 26 minutes. C'est sorti en 2020. Ça parle de Samy, un jeune assistant parlementaire fraîchement engagé, qui ne connaît pas grand-chose aux institutions européennes, mais qui espère s'en sortir au charme et au bas goût. Alors, qui a écrit ce synopsis parce qu'il est vraiment nul.
Il est dans quel parlement, par contre?
Il est à Bruxelles. Europe.
D'accord.
Et Mathilde, qu'est-ce que tu en as pensé?
Mitigé. Ouais, c'est bizarre comme mot. Non, je peux pas tout aimer. Non, non, j'ai bien aimé Samy. Allez, soyons clairs. La série est bien faite, même si c'est pas toujours évident, je trouve, à suivre, parce qu'on l'a regardé quand on mangeait principalement, et du coup,
dans notre vie privée.
On jonglait entre la VF et la VO parce que c'est une série.
C'est pas tout à fait comme ça qu'il faut le dire. C'est que comme c'est au Parlement, Samy est français et il parle avec tous ses collaborateurs en anglais.
Ou même des fois il parle allemand ou d'autres langues. Donc en gros, des fois, ils parlent français et puis hop, t'es obligé de lire les sous-titres. Et du coup,
la moitié de la série est sous-titrée.
Mais ça pose pas de problème si tu la suis scrupuleusement, bien évidemment. T'es pas obligé de manger. T'es pas obligé de manger ta salade en même temps, quoi. Ça devrait bien se passer. Sinon, la série montre avec humour les procédures à rallonge qu'on déteste et la lenteur de la politique européenne. Une lenteur que j'ai parfois ressentie en visionnant certains épisodes. Moi, des fois, j'ai trouvé ça long. Et c'était pas toujours passionnant.
C'est vrai que...
Et je trouve que...
Deux ou trois épisodes de moins auraient pas été de trop.
Et je trouve qu'en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est aussi les relations entre les différents protagonistes. C'est le truc qui est le plus intéressant, moi, je trouve, mais c'est parce que, que par exemple, lui, il essaie de faire passer une loi contre le feeling.
Contre le finning. Qui consiste à couper l'aileron des requins.
Voilà, c'est ça.
Pour le vendre après au marché chinois, principalement. Si t'avais regardé l'épisode de Sur le front des océans.
Tu le saurais.
Dont on a parlé certainement dans un récapito, tu le saurais.
Et du coup, en fait, il essaie de faire passer une loi européenne pour que cette pratique soit illégale, et on se rend compte que c'est vraiment très 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 compliqué. Du coup, en fait, ça, j'espère que c'est vraiment humoristique et que ça se passe pas comme ça, parce que ça fait très peur. Parce que si on en est là pour faire juste passer une toute petite loi, oh là là, la déprime.
Il y a des chances que si.
J'ai bien peur que ça se passe vraiment comme ça, que quand un pays veut défendre des choses, un autre pays dise « Eh ben non, nous, on s'en balèque et on continue ». Et comme c'est un parlement, donc il faut une démocratie, et ça lobbye dans tous les sens. Et ça, la série le montre très bien. Effectivement, c'est un peu caricatural, j'ai le noté. Mais je pense qu'il y a une vraie part de vérité.
Après, ça ne m'étonne pas tellement quand tu regardes, si tu veux faire un permis de construire à la mairie, ils te mettent 3 mois pour te répondre. Alors, faire passer une loi au Parlement européen, tu te dis, bon, ça doit mettre au moins 3-4 ans.
Eh oui. Non, de ce côté-là, c'est pas mal. Et même la série, je pense qu'elle a un petit côté, comme c'est le service public et tout ça, ça a un petit côté aussi un petit peu... On va essayer de vous faire découvrir, de mettre en lumière une échelle de notre démocratie qui est inconnue, le Parlement européen. Qui est capable d'expliquer ce que fait le Parlement européen autour de cette table? Moi, je ne peux pas.
C'est des gens qui parlent de l'Europe.
Ils votent.
Ils votent.
Voilà, donc vous ne savez pas plus que moi, finalement.
Ils votent à part quand c'est l'heure des saucisses.
Là, je pense que c'est cliché, par contre.
Joke de...
Là, c'est caricatural.
En gros, dès qu'ils se mettent à vendre des saucisses, il y a tous les Allemands qui se lèvent du Parlement pour aller manger leurs saucisses.
C'est pas du tout cliché.
C'est cliché.
Et pour terminer, je dirais que Xavier Lacaille, son nom, pardon, je suis désolé, son nom de famille, très marrant, qui joue Samy, il a une vraie sympathie communicative. Enfin, il est très marrant dans son rôle de jeune parlementaire motivé, mais qui se fait broyer par le système. Voilà, une chouette série française. C'est pas la série de l'année, mais c'est plaisant. Et on peut terminer par une série britannique dispo sur Canal+. Il s'agit de Breeders, que Mathilde et moi avons regardé. On a regardé la saison 1, qui compte 10 épisodes de 30 minutes. Ça parle de Paul et Ali, deux parents qui jonglent avec des carrières à plein temps, des parents vieillissants et une hypothèque, des bouleversements dans leurs relations et les incurvations peu enviables de leur parentalité, de leurs jeunes enfants Luc et Ava. J'ai rien compris à ce que j'ai lu. Je n'ai rien compris à ce que je viens de lire.
Mais comment
les incubations peu pas, envie.
Je copie-colle les synopsis. Voilà. Mais c'est un petit truc marrant, du
non,
coup.
Non, je trouve pas.
Parce que les enfants ont des enfants ou pas, du coup?
Non, bah non, ils sont trop jeunes, c'est des enfants.
Ce sont vraiment des enfants.
La parentalité de leurs jeunes enfants, moi, je comprends qu'ils ont genre la trentaine et qu'ils ont des enfants.
Après... C'est possible que j'ai coupé le synopsis qui était trop long.
Oui, je pense que c'est
du coup, on a gardé incurvation peu enviable, sinon aucun sens. Ok.
Oh là là.
Ça ne veut rien dire.
Oh là là. En tout cas, Breeders, c'est une série britannique et moi, j'aime les séries britanniques. Je les aime, elles sont tellement bien. Ça parle de la parentalité avec humour et justesse. Enfin, je suppose, parce que moi, je suis pas parent. Ma vie.
Damien n'est pas plus parent que nous, donc du coup, pourquoi il aurait un avis?
Tu peux donner ton avis sur la parentalité, t'as eu des parents, tu vois. Je pense ça suffit à donner un avis.
Oh là là. En tout cas, c'est vraiment amusant. Moi, j'ai beaucoup aimé le fait qu'ils essaient toujours de faire de leur mieux. Et que ça.
T'as des parents, ils sont pas morts, c'était un peu glauque. Ma
Ils essayent toujours de faire de leur mieux et malheureusement, ça finit toujours mal. C'est vraiment... c'est déprimant. Hein. Je me suis dit que ça a l'air vraiment compliqué pour eux.
Martin Freeman, c'est Paul.
Ouais. Oui. Et Martin Freeman, il est incroyable. Il, dans son rôle de papa, c'est un papa grossier et qui n'a aucune patience. Mais genre, aucune. Genre, je sais pas combien de fois il a insulté ses enfants
déjà,
dans cette série.
Déjà, son petit garçon qui s'appelle Luc, il l'appelle tout le temps mon pote. Dis, je te jure que si tu continues à pleurer, à crier, mon pote, je vais te défoncer. Voilà comment il s'adresse à peu près à son fils.
Et du coup, ça se finit que Luc ne l'appelle plus papa, mais
il l'appelle
Paul.
Tu m'étonnes.
Et du coup, il lui dit Paul tout le temps. Et l'autre dit, il faut qu'elle appelle papa.
C'est quand même surtout humoristique ou pas?
C'est assez drôle, c'est cynique. Voilà, moi j'ai noté que c'était
cynique. C'est de l'humour noir.
C'est vraiment du cynisme britannique, quoi.
C'est genre les enfants arrivent pas à dormir, du coup le père il les met dans la voiture pour les endormir dans sa voiture, tu vois. Mm-hmm. La mère, le père s'est disputé avec ses enfants le soir et que là elle trouve plus les enfants, elle trouve plus le père, elle appelle la police parce qu'elle croit qu'il les a tués.
Ok.
Tu vois la confiance quoi dans la famille.
En même temps, c'est vrai que rien que le titre, c'est genre éleveur dans le sens éleveur d'animaux normalement. Ça, c'est.
Et ben on en est là. Et du coup, la saison 2, moi j'ai beaucoup. Du coup, moi je vais regarder la saison 2, toi aussi, je pense. Et elle est déjà disponible sur Canal+.
J'ai pas eu le temps de donner mon avis, mais.
Depuis pas longtemps. Mais vas-y.
Tu la regardes.
Je peux compléter avec Martin Freeman qui casse un peu, qui profite de cette série pour casser son image de gentil monsieur mignon ou sage.
J'ai vu qu'il était dans une autre série sur les startups dont j'ai oublié le nom.
Je ne sais pas.
Où il a l'air d'avoir aussi un perso un peu de petit vicieux.
Mais je pense que Martin Freeman est plutôt comme ça dans la. Enfin, et pas le monsieur. Non, il n'est pas vicieux, j'ai pas dit ça. Non, j'ai dit que c'est pas il n'est pas lisse comme on peut le voir dans certains films. J'avais pas aparté pas très longue dans le making of de The Hobbit, le gars passe son temps à faire des fucks à la caméra. Dès que la caméra vient vers lui, il fait des fucks. Donc comme il est en costume de Bilbo, tu le vois faire des doigts d'honneur. C'est très drôle. Il y a des compilés sur YouTube, vous pouvez aller le voir, c'est très marrant. Moi j'aime aussi les codes de cette série qui sont très modernes parce que Paul et Alice sont des jeunes parents. Mais qui ont plus de 40 ans chacun. Et petit à petit, finalement, c'est des profils de parents qui sont de plus en plus répandus. Y a aussi Ali, donc la femme du couple, c'est elle qui travaille le plus. Donc ça casse un petit peu aussi ce patriarcat qui s'épuise avec le temps. Et plein d'autres trucs comme ça, où ça ressemble vraiment à une famille moderne de 2020.
Ils sont pas mariés.
Ils sont pas mariés, eux-mêmes Ali est divorcée. Elle s'est mariée plus jeune. Enfin, voilà, c'est une série très moderne aussi là-dessus. C'est très bien fait, c'est très marrant, c'est émouvant aussi parfois. Je crois que t'as pleuré, Mathilde.
Ouais, dans les épisodes où Luc finit à l'hôpital, j'étais en PLS. Voilà. J'étais vraiment pas bien.
Spoiler.
Oui, mais je dis pas ce qu'il a, mais j'étais vraiment pas bien. Mais j'étais plutôt en mode. Enfin, c'était prenant. Enfin, c'était. J'étais pas bien. J'ai cru qu'il allait mourir.
Ouais.
Ça m'a traumatisé.
Voilà, voilà pour Breeders. Et voilà, voilà aussi pour les séries. Eh ben, on va enchaîner avec les films. Et donc, jingle. Ce mois-ci, on a regardé qu'un seul film.
Mais on a été beaucoup de fois au cinéma.
On a vraiment profité de des cinémas et de l'embouteillage des films. Mais c'est pas un podcast sur le ciné, donc on s'en fout.
Bon, on peut dire ce qu'on a vu quand même.
Oui, on le dira en bonus après.
Après
le film dont on va vous parler. Il s'agit de Space Jam, le premier qui est dispo sur Netflix, qui était sorti en 1996. Il dure 1h29 et ça se voit. Mathilde et moi l'avons regardé donc ce mois-ci. Damien l'a vu un moment dans sa vie.
Ouais, dans des temps immémoriaux.
C'est un film d'animation réalisé par John Pitka avec Michael Jordan et Bugs Bunny. Vraiment, Bugs Bunny est crédité à ce film. Voilà.
Déjà, tu sentais que ça allait pas. Ils avaient fumé.
Ça parle. Alors, je vais lire le synopsis comme il vient. Vivant paisiblement dans leur monde, les Looney Tunes sont attaqués par des extraterrestres voulant en faire leurs esclaves pour leur divertissement. Acculés, les Looney décident de parier leur liberté dans un match de basketball. Paniqués, Bugs Bunny et Daffy Duck font venir dans leur monde le champion Michael Jordan pour entraîner les Toons et les aider à gagner le match. Voilà.
Alors, je vais exactement lire ce que j'ai écrit. J'ai pas grand-chose à dire, c'est passé super vite. Et quand j'étais enfant, j'adorais ce film, mais maintenant, je le trouve vraiment très nul.
Mais ça a peut-être un peu vieilli.
Je pense que ça a vieilli, mais je pense que quand t'es enfant, t'as une illusion du temps très différente. Enfin,
ouais,
tu vois,
un rythme qui est plus
le
adapté,
temps, j'avais l'impression qu'il y avait une vraie histoire à l'époque. Et là, je me suis dit, mais où est l'histoire ?
Le synopsis, ça a l'air bien, juste dit comme ça.
Ça a vieilli, effectivement, mais c'est pas à cause de l'animation. L'animation est toujours plutôt pas mal du tout. Passe. Franchement, je pense que celui qui est au cinéma actuellement, on l'a regardé ce film-là pour aller voir la suite. Je pense pas que c'était utile au final, mais bref, c'est pas l'idée. Je voulais dire que ça se trouve que l'animation de celui au cinéma n'est pas meilleure forcément. Ah ouais. Ça vaut toujours pas qui a tué qui veut la peau de Roger Rabbit.
T'as pas dit donc qui a tué ça.
Non, j'oublie. J'essaie d'oublier. Je suis en réhab. Je sais plus comment. Pardon, je sais plus le mot français. Je déteste faire ça. Mais c'est pas grave.
Je sais pas ce qu'il veut dire.
Bah moi je vois, mais le mot anglais me convient, donc je vais rester dessus.
Non, ça vaut pas l'animation de qui veut la peau de Roger Rabbit, mais c'est vrai. Ce qui pose problème, c'est vraiment le scénario. Où est-il ? Vraiment, vous voyez une feuille A6, et ben le scénario tient là-dessus. Le basket est évidemment, non, le film même, j'ai noté, est un prétexte à Michael Jordan. Ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup trop vite.
Moi, je trouve que Michael Jordan, il s'étonne de rien.
Mais oui, il accepte
il
beaucoup trop vite.
Il voit Bugs Bunny. Ok, je suis dans le monde de Bugs Bunny. Ils habitent au milieu de la Terre, sous le terrain de golf.
Et il y a un ciel.
Aucun problème.
Ok.
Bah, qu'est-ce que tu veux ? Il a l'esprit ouvert, tu veux ?
Ouais, c'est
ouais, mais là, c'est peut-être presque un peu
et
un
est-ce
peu
qu'on en
bête.
Parle de l'autre acteur qui joue son propre rôle?
Oui.
Bugs Bunny?
Non.
C'est
je connais tout le temps son nom et là j'ai un trou.
Ah bah voilà, passons à autre chose, je vais le retrouver.
Néanmoins, ça marche pas trop mal et comme on disait, ça les enfants, enfin moi quand j'étais enfant, je m'éclatais devant ce film, ça doit toujours être le cas pour les enfants aujourd'hui.
Bah et puis surtout à l'époque ils étaient tous fans de Michael Jordan.
Oui.
Quoi. Tous fans de Michael Jordan.
Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, mais quoique, enfin on va pas en parler, mais est-ce que LeBron James et marque autant que Michael Jordan, je pense pas. En France, on connaît pas LeBron James, par exemple.
Bah,
enfin, moi,
monde,
je le
quoi.
Connais un petit peu, mais c'est pas tout le monde connaît Michael Jordan. Tout le monde ne connaît pas LeBron James. Mais voilà, pas grand chose de plus à dire sur ce film, si ce n'est que ça marche bien. Mais voilà.
C'était Bill Murray.
Bill Murray.
Bill Murray qui ne sait pas pourquoi il arrive
Bill
sur
Murray.
Il joue Bill Murray et il arrive sur le terrain. Le mec, il était sur le terrain de golf, il se retrouve sur le terrain de basket à jouer, et personne ne se dit, mais comment il est arrivé là? Et le mec, il s'étonne pas de voir des Looney Tunes et surtout, de jouer avec eux.
Et surtout, Bill Murray brise le quatrième mur gratos, alors que pour l'instant, on sait, les personnages ne savent pas qu'ils sont dans un film. Et là, quelqu'un demande à Bill Murray, mais comment, pourquoi t'es là? Il fait, oh, je connaissais le producteur du film, alors il m'a fait rentrer. Je fais, mais...
En même temps, il joue pourquoi? Son propre rôle.
Oui, mais Bill Murray...
Il sait pas qu'on est dans un
Bill
film,
Murray. Murray joue le... Oui, mais rôle. Bill Murray, dans le film, joue un copain de Michael Jordan.
Ah oui, mais c'est peut-être le cas, du coup.
Oui, mais
du coup,
ça
il sait...
peut-être juste là, en fait.
Mais non, c'est très étrange. C'est... Ouais, voilà. J'espère que le 2, au cinéma actuellement, est un peu mieux foutu là-dessus. On verra. Oui, et on vous en parlera pas ici parce que ce n'est pas un podcast cinéma. Et là, je vois la transition est toute trouvée, que Damien voulait qu'on parle du film Kaamelott.
Non.
Alors, non, je voulais pas forcément qu'on en parle parce que j'ai mis du temps à me souvenir du film qu'on avait vu au ciné.
Mais oui.
Mais non, mais on a vu du coup Kaamelott. On a vu Cruella.
Oui, bah moi aussi.
On a vu. On a vu quoi?
On a vu... Vraiment, tu veux qu'on raconte tout ce qu'on a vu?
Juste là, le dernier... Ce mois-ci.
Ah oui.
Ça fait beaucoup ce mois-ci.
Bah, pas tant que ça.
Le discours.
Après,
on
c'est
a
vraiment...
vu le discours.
Ah, oui,
ouais.
Voilà. Moi aussi, je l'ai vu.
Mais t'étais avec nous.
Le hasard est total.
Ah bon? Je ne m'en rappelais pas. On n'a pas vu tant de choses que ça.
Ça fait déjà 4 hein. En un mois. C'est pas mal.
Ouais.
J'ai vu Fast and Furious 9.
Oh mon 5. Dieu.
Hein?
Ça fait 5.
Alors, on a vu Cruella, Le Discours, Black Widow, Président.
Après, est-ce qu'on est vraiment obligé de faire la liste des trucs dont on ne va pas parler?
C'est ça, on a juste vu ça. Black Widow et Président. Voilà, on
des articles sortiront pour certains.
Attends, vous avez été voir Président?
Ouais.
Vous avez payé pour voir Président?
On paye pour tout, nous.
Okay.
On va enchaîner
on
avec...
On donne notre argent à la culture.
Je voudrais enchaîner. C'est impossible.
Il
n'en
peut plus, il est 22h27.
Il est... Je veux dormir. On va enchaîner avec le sujet du mois et on va écouter une bande-annonce avant d'en parler.
Les héros, ça n'existe pas. Il n'y a que des losers. Le pouvoir, c'est comme une forteresse. Ça se prend.
Moreau, je vous ai laissé gérer la supercriminalité, mais vous foutez rien.
Voilà votre nouvelle coéquipière.
Je suis sûr que vous allez bien vous entendre.
Parlez pas à ma place.
Quoi?
On est appelé dans un lycée, là. Ça ressemble à une prise d'otage. Ben, on lance. Qu'est-ce qu'il y a?
C'est un bonbon?
C'est vrai, cette histoire de drogue qui donne des super-pouvoirs?
Tu pourrais identifier quelqu'un à partir de ses pouvoirs?
Monsieur le policier a besoin de son grand ami Monte Carlo.
Mathias Najarowski, il a 35 ans. Il se fait appeler Naja.
Arrête, s'il te plaît! J'ai un truc pour toi! J'ai un mec qui a des pouvoirs!
Il a fait flotter une meuf dans les airs.
Trouvez-le.
Police!
Arrête-toi!
Passe-moi le flag!
C'est une question d'être juste!
Le sujet du mois est le film « Comment je suis devenu super-héros » sorti sur Netflix le 9 juillet 2021, réalisé par Douglas Attal avec Pio Marmaille, Leila Bekti, Benoît Poulvorde, Villama Ponce. C'est l'adaptation du roman de Gérald Bronner « Comment je suis devenu super-héros » publié en 2007. Le film était initialement prévu le 14 octobre 2020, je me répète tous les mois, repoussé d'abord au 16 décembre 2020, puis encore repoussé au 21 avril 2021, et finalement encore une fois repoussé, mais cette fois sur Netflix pour une sortie donc le 9 juillet 2021.
Donc il devait sortir au cinéma à la base.
Eh oui, c'était un film qui réjouissait les cinémas, puisqu'ils avaient Kaamelott et Comment je suis devenu super-héros en gros blockbuster français, et finalement... Un des deux a lâché l'affaire. Je peux vous dire deux, trois trucs que j'ai notés qui pourraient un peu vous guider dans votre critique. Le producteur Alain Attal explique que ce projet ne vise pas à singer, vraiment les guillemets sont ouverts, les super-héros Marvel sans les moyens des studios américains. Il vise à trouver une alternative dans un univers réaliste pour une œuvre qui parle de notre culture avec une métaphore de notre société et qui interroge la notion d'héroïsme. Et le réalisateur Douglas Attal cite Watchmen, Batman et Daredevil comme influence pour les aspects urbains et humains des super-héros, ainsi que leur côté tourmenté. J'ai une question déjà. Est-ce que ils ont fait le film dont ils parlent, ces deux messieurs-là?
Bah, en fait, j'étais en train de réfléchir. Watchmen, Batman et Daredevil, c'est quand même des films très sombres. Enfin, c'est quand même des univers très sombres et violents. Non, mais...
Et Batman,
non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même des trucs violents et des univers de super-héros sombres, alors que là, on n'est pas dans un... On n'est pas vraiment dans...
Bah, ils disent que c'est vraiment l'aspect urbain.
Tourmenté. Bah, on est un peu tourmenté avec le méchant, mais on n'est pas trop tourmenté.
Le héros, il est super tourmenté. C'est juste que c'est pas beaucoup mis en valeur.
Bah, oui.
Il a tué son... Pas son maître, mais...
Son idole.
Ouais,
son
voilà.
Pote.
Son pote.
Son pote, ouais.
Son pote. Il a tué son pote.
Et sinon, on ne vise pas à singer les super-héros. C'est vrai qu'ils n'en font pas une...
Non, là, c'est vrai.
Ils n'en font pas un espèce de truc comique, c'est sûr. Mais et ils essaient...
Si, le Boulevard qui se téléporte dans un porte-manteau. C'est quand même un truc comique.
Mais quand bah,
peut-être
dit...
que cet acteur, ils auraient pu en trouver un autre. Et j'avoue que moi, à chaque fois que je le vois, je vois Podium et du coup, je suis toujours déstabilisée.
Je crois que François qui ressemble pas à Claude François.
Bah ouais, mais trop, il aurait pas dû faire ça. Enfin, moi, j'ai du mal à le prendre au sérieux, vraiment. Ouais, enfin, ça n'a rien à voir, mais voilà. Bon.
Mais moi, c'est surtout quand Alain Attal dit qu'ils veulent faire un film qui parle... qui est une métaphore de notre société qui interroge la notion d'héroïsme, je dis à quel moment ils font ça?
Les
super-héros sont jamais remis en question dans ce film.
Mais si, ils le font parce qu'il y a la police et les super-héros qui travaillent ensemble et à aucun moment
ils se mélangent.
C'est ça, et puis c'est ça le problème, c'est que du coup un super-héros ne peut pas être policier et inversement, et en plus tu vois lui il choisit d'être policier plutôt que super-héros parce que il a pas assez d'héroïsme pour être super-héros, il le dit.
Mais j'avoue que c'est plus vite fait montré que vraiment interrogé.
Au moment où ils sont sur le toit, là où son pote, il dit « si tu veux pas y aller, moi j'y vais ». Donc il va se battre en tant que super-héros. Et l'autre, il a peur, donc il y va pas. Donc c'est une question d'héroïsme. Il a beau avoir des super-pouvoirs, il s'en sert pas parce qu'il se sent pas héros et il se sent pas prêt mentalement. Si, moi je trouve que ça fonctionne.
Mais à quel moment le film le montre?
Il le montre quand ils sont sur le toit tous les deux là, avant de l'accident.
Ouais, mais c'est parce que c'est expliqué. C'est non, dit donc on le comprend.
Je trouve pas.
Jamais on voit le héros Moro être tourmenté ou être pris dans un vrai dilemme moral.
Moi je trouve que
moral.
Ça se voit qu'il est tourmenté. Hein.
C'est juste un...
Il est pris dans des dilemmes moraux.
Oh purée. Oh là
moi
là.
Je trouve qu'il est tourmenté, en fait, ça se voit qu'il est tourmenté.
Oui, mais j'avoue, enfin, au niveau du jeu, c'est pas non plus. Enfin.
Moi je trouve que le film ne va pas
assez loin.
Assez loin. Enfin, c'est que de la surface.
Oui, c'est vrai que c'est pas un Joker.
Après, ils essaient
quoi,
de caser vraiment beaucoup de choses dans un film qui n'est pas si long.
On n'est pas à fond dans la, on n'est pas aussi profond dans la psychanalyse des personnages.
Ouais, mais on n'est pas obligé de faire un Joker en restant dans cet univers-là. The Dark Knight, par exemple, Batman est vraiment tourmenté moralement.
Tu parles quand même de films qui ont beaucoup plus de budget premièrement, et en plus, je trouve que ce qui flanche dans ce film, c'est qu'on s'attache à aucun perso pour la bonne raison qu'il y en a beaucoup trop. Batman, le héros principal, c'est Batman. Et après,
moi, je me suis attaché à la coéquipière.
Et après, il y a quelques protagonistes autour de lui. Et ils sont pas très développés. C'est lui qui est développé avant tout.
On va pas s'amuser à comparer ce film à The Dark Knight. Mais dans The Dark Knight, il y a énormément de personnages aussi. Pour moi, c'est juste une histoire d'écriture où les personnages sont pratiquement des personnages fonction. Où ce qu'on sait d'eux, c'est des choses qui vont servir le film. Et finalement, ils sont très peu creusés. Il y a le héros tourmenté, les super-héros retraités qui ont refait leur vie ou pas, la gentille flic un peu mystérieuse, mais qui en fait est gentille, le méchant, Enfin, c'est que des personnages qui servent le film. Et à chaque fois qu'on creuse un peu, bah, c'est juste des trucs qu'on va pouvoir ressortir pour faire avancer l'histoire. Et jamais on va en apprendre plus sur eux, juste pour s'attacher à eux.
Il y a un petit chat.
qui mange le petit déj de son humain. C'est très marrant. Ouais,
il mange du café, quoi.
C'est très, bah, qui met du café dans ses céréales déjà?
Bah lui.
Est-ce qu'une personne normale le fait?
Moi, j'ai rien à dire sur la réalisation.
J'ai trouvé que ça a commencé vachement bien. Le plan d'ouverture avec ces néons là dans cette ruelle, c'était très très beau. Et puis après ça, ça vire à un film policier ultra classique. Avec des lumières naturelles, des décors naturels.
Bah, ça varie un peu, je trouve, quand même. Il y a des scènes qui sont comme ça, et il y a des scènes de baston vers la fin qui repartent un peu plus dans un truc un peu plus beau visuellement. La partie dans le commissariat où ça explose, il y a de la fumée, il y a des...
Mais c'est entrecoupé
de scènes un peu plus classiques.
Après, ils ont voulu en faire un film réaliste. Donc du coup, ils n'ont pas mis un espèce de couleurs ou de trucs beaux partout, tu vois.
Tu peux faire du réaliste en sortant, en cherchant des plans intéressants, une lumière travaillée.
Eux, ils voulaient pas.
C'est un problème. Et du coup, on est limite pas loin des fois de très bonnes productions TF1, quoi. Vraiment. Alors... pas loin.
Du coup, autant genre, moi j'ai vu Lupin il y a pas longtemps où c'est vraiment ça, genre un téléfilm un peu bidon. Et là c'est quand même au-dessus. Hein.
Oui,
c'est
parce qu'on reste sur un long métrage et qui est pas fait par n'importe qui. Les frères Attal sont des grands producteurs français. Donc je dis pas que c'est nul. La preuve en est, ils ont réussi à faire la scène d'ouverture et même la première séquence après où ils sont dans l'espèce de laboratoire clandestin qui est incroyable aussi. Mais voilà, les pouvoirs aussi sont bien fichus, comment ils sont représentés. J'ai trouvé que ça faisait un peu trop After Effects. On a acheté des packs After Effects, donc on les rentabilise.
Le pouvoir de Moreau, non?
Ah, la téléportation de Benoît Poulvord.
Ah oui.
Avec la fumée marron. Ouais. Enfin, c'est très beau, hein, ça rend bien, mais ça fait vraiment particule After Effects. Mais pour le coup, par contre, c'est super bien fait. Ça fait pas du tout kitschouille ou un peu on maîtrise pas trop ce qu'on fait. Contrairement par exemple à la série de super-héros de Netflix du mois dernier,
Jupiter's Legacy.
Yes, où là pour le coup ça se voyait qu'ils maîtrisaient pas et qu'après avec la couche After Effects ça rendait pas trop mal, mais qu'au tournage c'était vraiment pas bien. Là on n'a pas cet effet là. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour la réal. Ah non, si, quand ils volent, c'est pas très ouf. Voilà. Heureusement, ils volent que deux fois.
Bah, je trouve que la dernière scène où ils volent, ça va. Mais la première, oui, ça aurait pu être mieux fait.
Je trouve quand même que ça aurait pu péter un peu plus. Ils sont un peu... Il y a quelques scènes où ça pète, mais...
Pour la dernière ? Ah non, tu veux dire dans le film ?
Ouais. Par exemple, dans le même genre, il y avait un film que j'avais vu qui s'appelait Anti-Gang. Où ça pétait dans tous les sens, et vraiment film policier français, ouais. Ils allaient nettement plus loin, et bah, ça aurait mérité d'avoir un peu ce côté-là. On va passer au scénario, et plutôt à l'écriture, et à tout ça, et je crois que Mathilde perd patience, elle a des choses à dire.
Non, je vais pas. Si, j'ai des choses à dire, mais je m'endors, il est tard. Non, ça va. Moi, je me suis pas attachée au personnage, aucun, ce qui est triste. Mais non, j'avais écrit Moreau comme Madame Moreau.
Non, Madame Moreau, ça s'écrivait comme ça.
Ah, je suis pas d'accord. Je ne sais même pas quel est le prénom de l'inspecteur Moreau. Si quelqu'un le connaît.
Je crois pas qu'il en ait.
D'accord, je trouve
personne t'a entendu.
Je crois pas qu'on le dise, son prénom.
Je crois pas
Je trouve ça un peu étrange parce que les prénoms, c'est bien pour s'attacher à un personnage. Ou les surnoms, mais on va dire que c'est son surnom. Sinon, je trouve que l'histoire est plutôt basique. Il y a un méchant et des gentils. Oui, c'est ça. Même si je pense que le méchant aurait dû tuer sa psy après ce qu'elle lui a fait subir. Le fait qu'il la retrouve pour en faire son génie du mal et qu'elle le laisse faire, moi, ça me paraît vraiment tiré par les cheveux.
Il la manipule.
Même si elle se sent coupable, je trouve vraiment qu'on est à la limite du probable.
Bah, elle a déjà une éthique un peu bizarre et tout. vu ce qu'elle a fait, donc il se dit je vais pouvoir la manipuler pour
ouais non moi enfants. Je trouve que c'est pas une bonne femme qu'on peut manipuler. Elle a vraiment une éthique bizarre, ok, mais elle est quand même psy, donc elle... je pense pas que tu devrais pouvoir la manipuler comme ça. Et regarde, en plus lui il a quand même tué ses deux parents. À quel moment il est sorti de prison?
Oui, non, mais ça
à
va
quel
prendre.
Moment elle lui a elle l'a retrouvé, où ils se sont retrouvés en lui disant tu m'as pourri la vie, maintenant tu es à mon service et tu fais ce que je te dis. Non, tout ça pour moi c'est clairement tiré par les cheveux au niveau du scénario.
Moi je dirais que c'est des facilités et le film en a quelques-unes, notamment ça.
Ouais.
Ça fait passer sans trop expliquer.
En fait, c'est on n'a pas envie de s'embêter avec ces trucs-là. On n'a pas envie de les expliquer, donc bah on en parle pas du tout. Et puis tu te poses la question, bah tant pis pour toi.
Ouais, sauf que pour que ton méchant il ait de l'authenticité ou vraiment que pour en avoir peur, et bah c'est bien de lui mettre de la confiance.
Ah bah pour qu'il ait peur, on a dit à l'acteur joue au méchant,
fait
le méchant.
Après il a joué
donc,
le
du
méchant.
Du coup il fait le méchant.
Par contre il fait un très bon méchant.
Ah, il le fait très bien. Et moi il m'a fait
Narlo,
flipper.
Je crois pas qu'on ait dit qui c'était.
Moi il m'a fait flipper grave, mais voilà ça m'a pas. Et puis même la jeune fille qui se fait enlever, elle a trois répliques dans le film.
Prétexte.
D'ailleurs, pareil, elle jouait dans la série Mixte dont on a parlé plus tôt, et elle a un vrai rôle dans cette série, et c'est une très bonne actrice, donc
elle a juste un rôle secondaire.
Mais ils auraient pu en faire quelque chose d'autre. Mais tous les persos, je trouve qu'il n'y en a aucun qui est vraiment. Il n'y a personne qui sort de l'écran et on dit ah oui, même l'inspecteur Moreau. Hein.
Gary Moreau.
Il s'appelle Gary.
Parce que t'es sur
merde,
Wikipédia.
C'est pour ça qu'on n'a pas jamais utilisé son prénom, c'est pourri.
C'est l'escargot dans Bob l'éponge.
Mais du coup, même lui, je trouve, il n'y a rien qui passe. À aucun moment, il m'a fait ressentir quoi que ce soit. Quoi. Et pourtant, ce n'est pas un mauvais acteur, ce monsieur.
Non, et puis il a vraiment la tête de l'emploi pour son rôle. Quoi.
Ouais.
On croit à ce mec-là, mais il manque de consistance.
Mais t'as raison que la fille, la coéquipière, enfin pas sa coéquipière, elle. Comment elle s'appelle?
Mais je sais pas, tu parles de qui? De Leila Beighty?
Oui.
Ouais.
Et je trouve que c'était elle qui avait le plus de consistance.
Ah ouais, moi je trouvais que la coéquipière en avait autant.
Mais non, je trouve que c'est elle qui. Parce qu'en fait, on la voit avec avec les gamins et qu'elle essaie de les sortir de la merde et tout. Mmh. Et je trouve que ça lui donne.
Puis elle est triste quand il meurt.
Ouais, ça lui donne un packaging plus. Enfin, c'est peut-être celle à qui on s'attache le mieux, parce qu'en plus, quand elle combat, on a vraiment envie de l'avoir gagnée. Mmh. Et en plus, elle a un pouvoir qui correspond pas. Enfin, qui peut l'aider, mais du coup, elle est quand même obligée de se battre avec ses poings. Donc. Je trouve que c'est peut-être elle avec qui on s'attache le plus.
Vous auriez dû me dire qu'on regardait un fan film Hérocorp.
Après, ça dit oh, il parle par punchline, Loki.
Ouais, c'est ça. Et après, il dit non, mais ils sont quand même bons, les gens qui ont fait ce film, c'est pas n'importe qui. Et bim, il déglingue le truc.
Mais non, mais parce que vraiment, en fait, c'est.
Tu parles pas de la saison 1 d'Hérocorp, j'espère, parce que c'est vraiment de bon niveau.
Non, je dis juste que en fait ça c'est dans le même univers. Enfin pas, non, je sais bien que non, mais c'est des personnages écrits de la même manière, une sorte de super-héros retraités qui ont plus ou moins envie de passer à autre chose, qui ont des pouvoirs plus ou moins qui déconnent avec le temps.
Il y a des similitudes.
Il y a des similitudes, mais vraiment je trouve que l'esprit est très similaire.
En même temps, tu parles de même le bouquin, je l'ai pas lu, mais je pense que c'est ça. Tu parles d'un univers réel où les super-héros existeraient en France. Donc, enfin, c'est pas étonnant que ça ait des similitudes. Ils parlent exactement de la même chose, cette série et ce film.
J'ai vu 2-3 trucs. Apparemment, déjà, le livre se passe aux États-Unis.
Oui, mais
et très différent du film.
Mais là, c'est une adaptation française et en fait, c'est ça que je te dis. Ouais. C'est en gros, c'est ce que le film a voulu dire, c'est exactement ce que. Enfin, les thématiques sont les mêmes et ça se passe en France tous les deux.
Mais on peut raconter des trucs sur les super-héros différemment quand même.
La seule différence, c'est qu'Hérocorp avait beaucoup moins de budget que ce film.
Il était beaucoup plus marrant.
Oui, c'était beaucoup plus.
Oui,
marrant.
Bon là, c'est pas très drôle. Il y a quelques moments où on sourit, mais c'est pas le but.
Il y en a un. Moi, j'ai rigolé avec le moment du psy où il y a un mec qui sort et qui contrôle pas ses émotions. Du coup, toutes les lumières clignotent.
Très Hérocorp.
Voilà, ça c'est
Hérocorp. Non, en fait, le film, je trouvais que finalement, c'était un film policier, ni plus ni moins, avec une sous-couche de super-héros par-dessus. où on suit une enquête et ça concerne des pouvoirs. Mais par contre, alors du côté des points positifs, j'en ai trouvé quand même. Les bâtons qui donnent des pouvoirs, c'est une idée géniale. Franchement, j'avais jamais vu ça et je trouve ça super cool. Ça doit déjà exister, j'imagine, mais là, pour le coup, c'est vachement bien.
J'ai déjà vu ça quelque part, mais je sais plus où.
On en a parlé un petit peu, mais l'histoire du méchant, je dis l'histoire, ses origines sont vachement bien. Après, on a déjà dit un peu sous-exploité. C'est un peu un méchant banal au final. Et pour conclure, moi je dis que c'est rafraîchissant quand même, malgré tout. Ça secoue un peu le cinéma français et ça en a besoin de le sortir, de nous proposer autre chose. Mais ça reste très convenu dans la réalisation, pas la réelle, la caméra, la mise en scène, la réalisation globale. C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. J'aurais peut-être dû regarder les bandes annonces.
T'attendais quoi?
Je m'attendais à un film de super-héros plus classique, avec de la bagarre. Ouais. Mais par contre, j'ai une interrogation. On comprend qu'on vit dans une société, enfin que ça vit dans une société avec des gens qui ont des super-pouvoirs. On voit qu'il y a des super-héros, des vrais grands super-héros. On voit qu'il y a de la petite criminalité avec des pouvoirs. Mais il n'y a pas de super-vilains. Il n'y a pas de super-vilains qui veulent faire le mal, l'apocalypse.
Mais parce qu'on n'a pas assez, ils n'ont pas assez développé l'univers, mais c'est possible.
Bah, c'est possible,
ça ressemble à un univers un peu comme My Hero Academia.
Après, à la fin du film, tout faisait un peu introduction pour une suite,
oui,
quand même. Et du
suite,
coup, ça fait un peu introduction de « Ah, il y a une équipe et des persos ». Et en fait, tu peux pas avoir un super-vilain quand ton héros, il maîtrise
pas
à peine ses pouvoirs, tu vois. Juste, il se ferait défoncer, il mourrait.
Mais ça fait très introduction, ça fait presque long pilote de série. Presque.
Ils vont peut-être faire une série après. Ou pas.
Moi, j'ai dit que c'était un film sympa. Mais en fait, le problème, c'est que j'aime pas trop les films policiers. Et c'est principalement un film policier plutôt qu'un film de super-héros. Donc, bah, du coup, c'est un film policier. Hein. Donc, bah, je ne l'aime pas beaucoup, beaucoup. Voilà.
Moi, j'ai mis l'inverse. Enfin, j'ai mis la même chose, mais j'ai mis que j'avais bien aimé le mix film policier et un peu comics. Enfin, un film de super-héros. Et que les acteurs étaient bien. Moi, j'ai bien aimé le cast.
Ok. C'était pas nul. Mais...
Non, c'était pas nul. Mais c'est peut-être à faire autre chose. Faites autre chose. Faites autre chose.
Des pains.
Mais... Ouvrez une boulangerie.
Faites des tutos make-up. On peut passer à la suite. On va parler des recommandations et des nouveautés du mois d'août. Mathilde, je te laisse la parole.
Ça continue. Ça veut dire que ça a commencé avant ce mois-ci. Et donc, ça continuera au mois d'août. C'est Star Wars The Bad Batch sur Disney+. Je ne sais pas à quel épisode ça en est pour le moment.
Il en reste deux, je crois.
Il y en a 10 en tout ?
Non, il y en a plus que 10.
Ah oui ?
J'étais voir vite fait sur Wikipédia. Je crois qu'il en reste 2.
Donc, 12.
Du coup, on en parlera au mois d'août de The Bad Batch, vu
ouais.
que normalement,
bon,
ça
ouais,
sera fini.
C'était trop bien.
Et bon, on verra si c'était trop bien ou pas. Le 4 août, sur Netflix, il y aura Control Z, la saison 2 qui va sortir. On n'avait pas parlé de la saison 1 sur le podcast, mais j'en avais fait un article sur le blog parce que c'était un véritable coup de cœur. Donc, allez sur le blog si vous voulez lire l'article. Le 6 août, il y aura Cruel Summer, saison 1, qui sort sur Prime Video. Alors, c'est une série qui ressemble un peu à Pretty Little Liars, si je peux dire. C'est l'histoire d'une jeune fille qui a disparu. C'était, on va dire, la vedette de l'école. Je ne sais pas si on peut dire ça.
Si, la
vedette.
Fille populaire.
Ouais, la fille la plus populaire de l'école. Et en fait, il y a une autre fille qui n'était pas du tout populaire qui se met à devenir populaire. Du coup... Et est-ce normal ? C'est un peu un thriller policier, mais pour adolescents, tu vois.
D'accord.
Voilà, et c'est sur Prime Video. Vous pourrez regarder si vous voulez.
Est-ce que sur le principe, Quoi? Ça ressemble à qui a tué ça?
Oui, peut-être, mais c'est beaucoup plus court. Il me semble que c'est en 6 épisodes ou 8 épisodes. Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, ça, c'est dans les recommandations. Le 11 août, il y aura deux choses qui vont sortir. Une série What If sur Disney+, c'est une série animée et il y aura un épisode par semaine, du coup. Je ne sais pas jusqu'où ça va aller, je ne sais pas combien d'épisodes vont sortir. Et je ne sais pas combien de temps vont faire ces épisodes.
Moi non plus.
Je ne sais rien.
Tu veux qu'on regarde ?
Non, d'accord. Mais c'est pas grave. Chose. Ça sera la découverte. Et la même date, il y aura The Kissing Booth 3 sur Netflix qui va sortir. Donc ça, c'est un film. Ça sera le troisième et le dernier de cette trilogie. Voilà.
C'est là que c'est bien fichu.
Pourquoi ?
C'est le 3, c'est le dernier de la trilogie.
C'est incroyable, c'est le dernier de la trilogie. C'est l'histoire d'une jeune fille qui fait un bisou à un mec sur un stand de baisers et ils tombent amoureux. Et là, la grande question de ce film, c'est elle a promis à son meilleur ami d'aller à la fac avec lui, mais elle a aussi promis à son amoureux d'aller à la fac avec lui. Bien entendu, ils vont pas dans la même fac et elle ne sait pas dans quelle fac elle est et elle ne sait pas où elle a été acceptée. Du coup, elle doit à la fois profiter de son dernier été avec son meilleur pote et avec son amoureux. Bien évidemment, ils ne s'entendent pas très bien. Voilà.
Moi, je sais qu'à la fin, le meilleur pote et le copain sortent ensemble.
Ah, ça serait marrant. Ça serait une fin intéressante. Sinon, le 20 août, il y aura sur Netflix Directrice. Donc, c'est une nouveauté la saison 1. Une série avec Sandra qui se retrouve directrice d'une université. Et donc la série nous parle du fait d'être une femme sur un poste à responsabilité et ce que ça implique. Le 23 août, sur Netflix, toujours, il y aura la série animée The Witcher, le cauchemar du loup, dont Damien nous en a parlé.
C'est un film.
C'est un film, désolé, un film d'animation. Le 24 août, sur Prime Video, il y aura le film Cow Walking, donc un film avec Tom Holland et Daisy Ridley. Oh, c'est le mélange de Marvel et de Star Wars.
Oh là là, oh là là. Non, je suis
ça
très
devrait
déçu.
Être sur Disney Plus d'ailleurs.
Oui. Mais ça devait être au cinéma, j'en ai marre.
Oui, ça devait être au cinéma, exact. Et je tiens à dire que Cow Walking est une adaptation d'un livre young adulte que je n'ai pas lu, mais voilà. Ça parle d'un monde post-apocalyptique dans un futur plutôt proche où les femmes ont disparu et une entité mystérieuse appelée le bruit dévoile les pensées des gens.
Mais Daisy Ridley joue pas une femme?
Bah justement, qu'est-ce qu'elle fait là?
La violence.
Pourquoi? C'est peut-être ça le problème. Une femme qui soudainement apparaît dans cet univers.
Je pense
univers
qu'il y a quelques
d'homme.
Prolos qui disent ça quand ils la voient dans le film. Qu'est-ce qu'il a fait là?
Mais non, mais...
C'est sûrement de ça.
On était bien entre mal.
La thématique est là, c'est que du coup, il y a cette femme qui apparaît dans ces mondes post-apocalyptiques d'hommes. Et pourquoi, comment et qu'est-ce qui se passe? Là est la question. Et enfin, le 30 août, alors c'est pas vraiment une sortie US, c'est une sortie France, on va dire. Il y aura la saison 5 de The Boy Type qui sera disponible sur Prime Video. Pas du tout, ça parle d'un groupe de trois filles qui sont meilleures amies et qui essayent de vivre et de réussir leur vie dans le monde de la mode.
Aucun rapport.
Avec
non, rien
du tout. Mais c'est très sympa comme série, c'est très feel good. On s'en sort toujours avec le sourire.
C'est un petit peu un Sex and the City revu et corrigé en 2020.
Ouais, c'est un peu, c'est féministe, c'est feel good, c'est cool.
Ouais. Même moi j'aime bien. Et...
Oui, il regarde avec moi pour te dire. Et je ne l'oblige pas. Je ne l'oblige pas.
Je ne m'attache pas.
Par contre, moi je l'oblige à m'attendre.
Du coup.
C'est tout. Bah oui, on est au 30 août. Bah oui, voilà. Ce récapito du mois de juillet est terminé. On espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, vous pouvez nous suivre sur nos réseaux, Twitter et Instagram, et sur notre blog plaid.fr. Vous pouvez nous aider à être mieux référencés en mettant des étoiles, et n'hésitez pas à nous laisser des messages et des commentaires. On se retrouve En août, DC a passé une belle deuxième moitié d'été. Personne ne dit ça.
Et prenez... Ensoleillé, on l'espère.
Oh, Inch'Allah. Et prenez soin de vous surtout. Merci beaucoup à vous deux.
Merci à toi.
Merci. Désolé pour l'endormissement. Voilà.
Il est 5 heures du matin. Et merci à vous dans les oreilles, bien sûr.
Bye.